Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Quasiment 22h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. À la une ce dimanche, les hôpitaux se préparent à une vague importante de patients touchés par le Covid, mais également par la grippe. Résultat, l'obligation du port du masque dans les transports se dessine. Une décision politique pour les scientifiques et les scientifiques pour les politiques. Bref, personne ne veut franchir le Rubicon. Alors ce masque, on le porte ou pas dans le métro, dans le bus, dans le tramway? Écoutez le ministre de la Santé, François Braun.
Je veux montrer ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là.
Son bras ne tremble pas pour le masque, mais ses jambes tremblent un peu pour les soignants. À la une également, la phrase choc du président de la République. L'immigration fait partie de l'ADN de la France. Alors que les flux migratoires sont incontrôlés depuis des années, la déclaration a fait vivement réagir la classe politique. L'absence de politique migratoire ferme est une bombe à réaction pour Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez.
On ne se rend pas compte qu'on est en train, depuis des années, d'alimenter une bombe.
Une bombe
à retardement, oui, une bombe à retardement. Parce que moi, je ne me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai pas envie de voir ça.
Enfin, Éric Zemmour a soufflé la première bougie de reconquête. Voilà un an qu'il est entré dans l'arène politique. Une année faite de réussites et d'échecs. Écoutez Pape Ndiaye lorsqu'on lui demande si Éric Zemmour a instillé un poison dans la politique française.
Un poison, il n'y a aucun doute. Durable, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mmh. Mais c'est un polémiste professionnel complètement dévalué.
Programme, je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, on fait le point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche.
Dans les Yvelines, l'hôpital André Mignot de Versailles, visé par une cyberattaque. Un piratage qui perturbe l'activité de l'établissement depuis hier soir. Le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. Quant à l'accueil des patients, il est désormais limité. Il est conseillé pour les personnes contraintes de se rendre aux urgences d'appeler le 15. Dimanche prochain, nous connaîtrons le nom du nouveau président des Républicains. Éric Ciotti et Bruno Retailleau se sont qualifiés pour le second tour de l'élection. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a récolté 42,73% des suffrages contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR. Le député du Lot, Aurélien Pradier, est lui éliminé avec 22,29% des voix. Et puis après plus de 2 mois et demi de manifestations en Iran, la police des mœurs a été abolie. Depuis 2006, cette unité patrouille pour faire respecter un code vestimentaire strict. Elle est notamment à l'origine de l'arrestation de Mahsa Amini pour avoir mal porté son voile et dont le décès a provoqué la vague de contestation. Hier, les autorités ont annoncé vouloir réviser la loi sur le port du voile obligatoire en Iran.
Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Puyboulot. On est avec le professeur Megarban ce soir. Merci d'être avec nous, professeur. Vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Il y aura une longue page pendant Soir Info Week-end, évidemment, sur la crise sanitaire. Charles Sigenstuhl, merci d'être avec nous, député Renaissance du Bas-Rhin. Important d'avoir la parole de la majorité relative. Je vous rappelle que c'est relatif.
Mais majoritaire. Majoritaire quand même,
oui, mais
majoritaire. Et réélu à l'élection présidentielle.
Vous avez entièrement raison, monsieur le député. Bonsoir. Et c'est un plaisir de vous avoir. Il y a quelques députés de la majorité qui. Moi, je suis content de les avoir. Et vous en faites partie.
Moi, j'aime bien CNews.
Ah, bah. Vous êtes un homme de bon sens. Ça manque un peu du côté de la majorité relative. Nathan Devers, merci d'être avec nous.
Bonsoir, Elliot.
Cher Nathan, Paul Melun, l'élégance.
Bonsoir, Elliot.
Merci d'être avec nous. Paul, vous allez mieux ? Vous étiez un peu grippé la semaine.
Oui, l'année dernière.
L'année dernière, vous étiez grippé.
Vous voyez, je suis encore un peu. J'ai la main qui tremble, je suis comme le ministre.
Ah non, il a le bras ferme. Il a la main ferme.
C'est un homme à poigne.
Ah bah, évidemment.
On va en parler.
Judith Vintraube.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Marthe Varnaud.
Bonsoir, Elie.
Plaisir de vous retrouver.
Merci.
L'éditorialiste, le sniper de CNews. Il est là, il est avec nous, Marc Varnaud. On fait le point sur l'information. Non, on l'a déjà fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est le point sur la publicité. Quelques instants. Et puis, on revient. Et on commence le débat. 22h10 sur CNews, top départ de Soir Info Week-end. On est avec Nathan Devers, avec Charles Sijenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin et porte-parole du groupe à l'Assemblée, avec le professeur Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, Paul Melun, qui a eu la grippe l'année dernière, mais également la semaine dernière.
Mais je ne l'ai plus,
alors,
ça, bien
sûr,
en pleine forme.
C'est pour ça que vous êtes sur le plateau, avec Judith Vintraube. Et avec Marc Varnaud. On va commencer avec une belle image et il faut dire bravo à notre équipe de France qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Regardons juste l'image. La victoire 3-1 contre la Pologne. Ça a été serré, on a eu un peu peur. Il y avait du monde, hein. Vous voyez tous ces supporters français au Qatar. La joie de Didier Deschamps. Ça commence avec un premier but d'Olivier Giroud. Vous savez que ça devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il dépasse Thierry Henry. Et puis ensuite, c'est le génie de Kylian Mbappé, 74e minute. La frappe. Énorme frappe. Et puis la deuxième, alors là, c'est pour les gens qui jouent à la PlayStation, c'est FIFA pour ce troisième but. Et puis il y a même un pénalty. 3-1, donc score final. Les Bleus qui affronteront l'Angleterre en quart de finale. Ouh là 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 là, ce match France-Angleterre. Et puisqu'on a un président de la République qui voit et qui a l'avenir. Regardez. Alors là, c'est les huitièmes de finale. On voit les scores en
manière.
Exactement. Regardez. C'est pour ça que je voulais qu'on commence par ça. Ouais. Emmanuel Macron qui avait vu le match avant de voir le match. Je pense qu'on gagne 3-1. Lewandowski va en mettre un. C'est vrai. Comme Mbappé, c'est vrai. Et peut-être Giroud, c'est vrai. Qui a envie d'entrer dans l'histoire. Il a totalement raison. Et joker pour le troisième but des Français, Emmanuel Macron. Ouais.
Il a peut-être des informations que nous n'avons
pas.
Oui, c'est
pas, ça. Soit il a raison, soit il a quelque chose derrière.
C'est
derrière
cette victoire. C'est un magicien.
C'est un magicien.
Non, mais c'est un
magicien. Le foot mène à tout.
Alors, vraiment, c'est un magicien. Alors, pour le coup, il est très bon sur le football, les pronos football. Par contre, sur l'énergie, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en juin 2022, il y a 6 mois, il avait dit il n'y aura pas de coupure. Ah ouais. Et de toute façon, si problème il y a, l'Europe va nous aider. Donc ça, c'était pour la petite blague. Juste un mot, finalement, sur cette Coupe du Monde, Charles Sijenstuhl. Allez, vous voyez d'ailleurs l'arrivée des joueurs de l'équipe de France. Ça fait du bien, quand même. C'est une respiration au-delà des polémiques qu'il peut y avoir autour de la Coupe du Monde.
Ah bah ça fait toujours du bien de voir le drapeau bleu, blanc, rouge porté fièrement, de voir la France avancer, marquer. Puis on espère que l'équipe ira au bout. C'est un mot de fierté collective dans cette période un peu morose.
Le quart de finale donc, France-Angleterre, ça va être intéressant. On passe au Covid, c'était notre petite image, et là on passe aux choses sérieuses. Pendant la publicité, je vous demandais, professeur Mégarban, si vos services d'urgence et vos services de réanimation étaient déjà saturés. Et la réponse, parce que les téléspectateurs,
malheureusement, nous sommes en situation de saturation quasi permanente. Avant même le début de l'épidémie, nous travaillons à flux tendu. En fait, on se rend compte des difficultés lorsque l'on passe de plus en plus de temps à devoir transférer les patients et lorsque le taux de refus d'admission dans les services augmente. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucune façon de faire pour pouvoir accepter les patients. Donc nous devons les gérer le plus souvent sur des brancards aux urgences. De fait, évidemment, la prise en charge est moins optimale.
Moins optimale. Décembre 2020, vous aviez combien de lits dans votre service ?
On va dire, notre service a 18 lits.
Oui.
Et donc nous avions doublé le capacitaire en mars-avril 2020. Nous étions sortis des murs, d'ailleurs, comme l'ensemble des services de réanimation. On a 5000 lits sur la France entière de réanimation, et nous étions passés à 7500 uniquement en raison du débordement sur deux régions, Île-de-France et Grand Est.
Donc ça, c'est décembre 2020. Décembre 2022, vous êtes comment ? Est-ce que vous avez plus de lits de réanimation ?
Alors, en fait, le nombre de lits total disponibles pour la réanimation n'a pas augmenté, voire même il a diminué, puisqu'à peu près 10% des lits sont fermés faute de personnel et de moyens. Et donc, de fait, nous devons faire avec à peu près le même nombre de lits, alors même qu'on nous avait promis 2000 lits de plus, en fait, qu'on n'a jamais vu.
Judith, vous vouliez réagir très rapidement.
Oui, parce que j'ai le souvenir qu'il y a presque un an, on avait constaté une décorrélation entre le nombre de contaminations et le nombre d'entrées en réa. Est-ce qu'on a des raisons de penser que ça s'est de nouveau corrélé ?
Non, pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a bien une décorrélation.
C'est ça qui compte en fait, pour savoir quelles contraintes on impose aux Français.
Quand vous parlez de décorrélation, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de contaminations et le nombre de patients admis en réanimation est tout aussi faible aujourd'hui que depuis les vagues Omicron. En fait, depuis la vaccination et la bonne couverture vaccinale de la population française. Là où il y avait un moins bon ratio, c'était tout au début. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a imposé le confinement, car sinon il y aurait eu un pourcentage de décès dans la population extrêmement élevé, faute de pouvoir les prendre en charge.
Avançons. On reviendra évidemment sur cette neuvième vague de Covid, mais l'information de ce week-end, et c'est peut-être un tournant pour ces soignants qui sont non vaccinés et qui sont sur la touche depuis plus d'un an. Vous avez donc la Cour d'appel de Paris qui a décidé de réintégrer une sophrologue à l'Institut Curie. Son avocat était sur notre plateau hier. Je vous propose d'écouter son témoignage et puis ensuite on va en parler.
C'est la première infirmière à avoir été réintégrée en France alors qu'elle n'est pas vaccinée. Elle est la première. Elle n'était pas en arrêt maladie, elle n'était pas en congé. Elle est la première, donc c'est historique. L'objectif, il est très simple, hein, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, c'est que mes clients puissent percevoir leur salaire à la fin du mois et puissent vivre.
Elle était en survie, ça faisait un an qu'elle était en survie.
Et il y en a beaucoup qui sont dans sa situation. Je pense que les collègues soignants n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir des coups de main hein, de la part de leurs collègues qui ont été suspendus. Donc moi, vraiment, j'attends de voir les soignants qui, effectivement, n'ont pas envie de voir des collègues à eux qui ne sont pas vaccinés revenir.
Autre
ça, totalement ridicule comme argument. Et c'est la première parce que, premièrement, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés à faire appliquer le droit tel qu'il a été voté. Et je pense que les employeurs de ces infirmières en ont profité pour faire du zèle sur, la suspension des salariés non vaccinés.
Je me tourne vers vous, Charles Sijenchou, parce que c'est une décision évidemment politique et non scientifique, la non-réintégration des soignants qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'ensemble du pays, de l'Europe, pardonnez-moi, on est le dernier pays à maintenir cette restriction-là. Pourquoi aujourd'hui on s'entête en France à ne pas réintégrer ces soignants?
Je pense que c'est une décision qui est justifiée et que sur ce sujet de l'épidémie du Covid, on doit prendre en compte l'avis des plus hautes autorités médicales du pays. Et la vérité est que les plus hautes autorités médicales du pays et que de nombreuses voix importantes au niveau de la médecine sont contre cette réintégration. Que par ailleurs, pour en avoir discuté moi-même dans ma circonscription avec un certain nombre également de directeurs d'établissements médico-sociaux, plusieurs ne sont pas favorables à la réintégration de cette minorité de soignants qui ont refusé de se vacciner. Puisqu'on ne peut pas d'un côté prétendre défendre une médecine moderne, basée sur le progrès, sur la recherche scientifique, soigner des gens, et de l'autre côté ne pas s'appliquer à soi-même comme soignant ses prescriptions.
Est-ce que ce vaccin, pardonnez-moi, j'essaie de...
Et que pour terminer, 99% des soignants de notre pays se sont vaccinés. Et qu'on ne peut pas expliquer, et c'est bien ce que disent les directeurs d'établissements médico-sociaux, on ne peut pas expliquer qu'à 99% des soignants, vous êtes vaccinés, et on va céder aux pressions, au chantage
de cette
minorité.
Le projet de loi, c'était quoi? Le projet de loi, c'était de dire les soignants qui sont non vaccinés, il faut les tester tous les matins. Tous les matins, un soignant qui est non vacciné, il se fait tester. S'il est négatif, il peut aller travailler. S'il est positif, il ne va pas travailler, bien sûr. Et moi, je vais vous faire un cas pratique, et on l'a déjà fait la semaine dernière. Et finalement, c'est une question de bon sens. Vous avez un soignant A qui est triplement vacciné, qui sort, qui fait la fête, qui vit une vie complètement normale, qui n'est pas testé le lendemain. Et vous avez un soignant B qui n'est pas triplement vacciné, qui, en revanche, va être testé tous les matins. Et donc, on va voir s'il est positif ou non. Lequel est le plus à risque pour l'hôpital? Et vous avez déjà la réponse, en fait.
Je pense pas que ça soit de cette façon que le sujet se pose. Parce que les soignants ont une éthique, et j'irais même une morale de
travail. Mais ça veut dire que l'Europe n'a pas de morale? L'Europe n'a pas d'éthique, Charles Fiedenstuhl?
Je ne pense pas. Je ne pense pas que les 99% de soignants de notre pays soient des gens qui soient irresponsables et qui mettent en danger sciemment la santé des gens qui sont amenés à...
Paul Melun.
Vous sortez du terrain sanitaire pour le terrain moral ou politique.
Oui. Et ensuite, on aura l'avis scientifique.
Éthique, oui, mais ça, c'est votre définition à vous de l'éthique. C'est peut-être
c'est
pas
la définition.
Mais en tout cas, ce qu'expliquait Lyon dans son cas pratique
professeur.
Est frappé au saut du bon sens. C'est-à-dire que du moment que le vaccin ne permet pas de ne pas transmettre et n'empêche pas effectivement la contamination, à quoi bon, si vous voulez, ne pas intégrer ces soignants-là? On a quand même eu dans cette pandémie des moments qui confinaient un peu au sublime. Quand on avait les pompiers, il y avait les feux de forêt dans le sud-ouest et les pompiers qui n'étaient pas vaccinés ne pouvaient pas aller éteindre l'incendie, alors même qu'on avait besoin de pompiers. Enfin, excusez-moi, c'est incompréhensible pour une immense majorité de Français dont je fais partie, si vous voulez. C'est juste, à un moment donné, une espèce de volonté politique qui se traduit par une administration qui, à certains égards, aime bien émettre de la norme et du règlement dans tous les sens et qui n'est pas corrélée avec les réalités sanitaires, les besoins sanitaires du pays, alors même que le vrai problème aujourd'hui, ce serait plutôt l'investissement dans l'hôpital. Vous rappeliez la question des lits et le fait que les urgences étaient en tension. C'est là qu'il faut mettre l'effort. Pas sûr de la mesurette et de la réglementation à tire-larigot, comme on en fait trop en ce moment, je pense.
Professeur Megarban, quel est votre regard sur cette question-là? Est-ce qu'aujourd'hui, alors que je le répète vraiment et je le répéterai pas jamais assez, l'ensemble de nos voisins européens ont mis de côté cette mesure, puisque le vaccin, même triplement ou quadruplement vacciné, on peut l'avoir et on peut le transmettre, et ben ils ont mis de côté cette mesure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je suis plutôt réaliste. Je pense qu'effectivement, personnellement, je serai en faveur de la réintégration, non pas pour donner raison à ceux qui ne se sont pas vaccinés, mais tout simplement pour tourner la page, pour passer à autre chose et s'occuper de l'hôpital public. Néanmoins, je pense que l'arrivée de ce personnel non vacciné en rien ne va changer la situation de l'hôpital. Bien sûr. L'argument de dire, comme je l'ai écouté dans la bouche de l'avocat...
Oui, mais c'est une question d'éthique, c'est une question de symbole. Et pour le coup, après, c'est chacun sa vision de l'éthique, bien évidemment.
Alors, moi, je dirais... moi, je réintégrerai ces soignants. Par contre, effectivement, il faudra les mettre à des postes tout à fait particuliers. Pourquoi ? Parce que, je dirais, ce sont des personnels qui, très probablement, auront du mal à faire de la vaccination, auront du mal à encourager la prévention, auront du mal à parler exact en ce qui concerne l'épidémie. Et donc, de fait,
ça, c'est intéressant.
Il faut...
Et c'est à chaque fois la question que je... Mais vous avez raison, professeur, c'est à chaque fois la question que je pose.
À l'hôpital ?
Vous pouvez vacciner.
Si, c'est ça, c'est vous pouvez, non, mais vous pouvez solliciter. Marc Varno.
Beaucoup d'entre eux, quand même,
Marc Varno.
Le fait de ne rien avoir compris à la vaccination.
Avant votre réaction, Marc.
Je sais que malgré tout, ils ont une certaine réflexion.
Marc Varno, vous allez réagir dans un
instant. Sur la vaccination.
Vous allez réagir. Juste, on écoute le ministre de la Santé. Il a parlé justement de la réintégration des soignants non vaccinés. C'était cet après-midi. Écoutez.
Sur la réintégration des soignants non vaccinés, il y a deux faces différentes à cette question. Il y a la phase scientifique, c'est-à-dire quel est le risque pour des personnes non vaccinées, qui n'ont pas fait le Covid non plus, d'être en contact avec des patients fragiles. Il y a un risque, quelle est l'évaluation précise de ce risque? C'est la question que j'ai posée à la Haute Autorité de Santé, le versant, je l'ai dit, médical.
Quand est-ce que vous aurez la réponse?
Début d'année. Il y a un versant éthique ensuite, parce que quand on est soignant, on est soignant pour prendre soin des autres, pas pour leur faire prendre des risques. Oui, mais...
Cet argument, l'éthique, vous en pensez quoi, Marc Varno ?
Je pense que l'éthique, ce qui était vrai hier, pas forcément aujourd'hui, sera peut-être le contraire demain. Je crois qu'il y a quelques vrais sujets. D'abord, le premier sujet, c'est la défiance à l'autorité de l'État. Je crois que ça, c'est un sujet qu'on apporte peu, mais celui qui refuse de se faire vacciner, il y a un côté défiance dont on va se méfier, parce qu'aujourd'hui, c'est les soignants, demain, Dieu seul sait qui ce sera. La troisième chose, c'est que on parle sans arrêt de ces histoires de cette micro-minorité de soignants qui refusent de se faire vacciner. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des problèmes de l'hôpital. Et ça permet, encore une fois, comme toujours depuis 40 ans, de parler d'un sujet, pardonnez-moi, mais relativement périphérique, pour éviter de parler du vrai sujet, qui est celui de la santé, et qui est un sujet qui, aujourd'hui, est explosif.
Marc, ce n'est pas un sujet périphérique. Ce n'est pas un sujet juste symbolique. Parce que ça dénote quelque chose. Encore une fois, lorsque vous avez l'ensemble de vos voisins qui mettent de côté la mesure, puisque le vaccin ne permet pas de bloquer les transmissions, vous avez psychologiquement quelque chose qui se passe. Nathan Nevers, ensuite.
Vous avez remarqué que dans la déclaration du ministre, il y a une contradiction. Petit A, c'est sanitaire. S'il y a un risque, et j'attends la réponse des autorités sanitaires, je ne le fais pas. Petit 2, c'est éthique. Puisqu'il y a un risque, alors qu'il est censé attendre la décision des autorités sanitaires, je ne veux pas les réintégrer.
Nathan Devers.
Oui, je suis d'accord avec votre contradiction. Moi, ce qui m'interpelle dans le discours de François Braun et dans le discours plus généralement de tous ceux qui sont contre la réintégration des soignants, c'est deux choses. Premièrement, cette manière de s'en dire qu'ils s'en remettent aux autorités de la santé. Je trouve ça inquiétant dans une démocratie libérale. Quand on doit prendre une décision politique, on doit la prendre selon plusieurs paramètres. Pas seulement celui de l'efficacité ou pas seulement celui de la mathématique ou de la santé et du pur calcul. Il y a des paramètres politiques, il y a la prise en compte des libertés publiques, il y a la prise en compte du droit du travail. Et là, si vous voulez, on oublie tout ça, on suspend des gens, c'est pas un licenciement, on les suspend sans salaire, on réduit leur vie à peau de chagrin et on dit ce sont les scientifiques. Les scientifiques, ils sont pas là pour faire de l'éthique, c'est pas leur métier. Moi, je les respecte. Mais justement, le rôle du politique, c'est de ne pas écouter que les scientifiques.
Bien sûr.
Et la deuxième chose qui me dérange, et à mon avis, c'est le plus grave, c'est que c'est très grave dans une démocratie libérale que les pouvoirs doivent nous dire quelle est l'éthique. Le béaba de la démocratie libérale et de la liberté moderne, c'est que les pouvoirs ne sont pas là pour faire de la morale, ne sont pas là pour dire ce qui est bien, mais ce qui est légal, ce qui est juste, non pas au sens de la vertu, mais au sens de la justice légale. Et ce glissement-là de, si vous voulez, la liberté négative, la liberté comme indépendance vers la liberté comme éthique, est un glissement très inquiétant qui indique une pente autoritaire.
Mais c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que sur le masque, par exemple, on voit la difficulté de la majorité et du gouvernement. C'est-à-dire que les scientifiques vous disent non, l'obligation du port du masque dans les transports, c'est une question politique et non scientifique. Et inversement, les politiques disent, en tous les cas le gouvernement, disent, bah, on va attendre de voir ce que pensent les scientifiques pour prendre une décision ou non. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On est en train de se confronter. La publicité, on revient dans un instant. Et là, on parlera du masque. Va-t-il être obligatoire ou non dans les transports en commun ? Finalement, la chanson, on la connaît un peu. On sait que vu que les augmentations de les contaminations augmentent, qu'à l'hôpital, ça devient inquiétant. Allez, dans les deux semaines à venir, vous allez porter, Paul Melun, le masque.
Non.
Ah, c'est pas parce que vous avez eu la grippe la semaine dernière, et même l'année dernière, que vous allez plus le porter.
Désobéissance.
Masquez-vous.
Désobéissance.
Masquez-vous, Paul Melun. Allez, la publicité, on revient dans un instant. 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. On est ensemble jusqu'à quasiment minuit, sans publicité, avec Nathan Devers, avec Marc Varnaud, Paul Melun, avec Judith Vintraube, avec Charles Sizenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin et porte-parole du groupe, et Bruno Meyerban, chef de service de réanimation à l'hôpital La Riboisière. Je vous ai pas fait un tour de table parce que juste avant la publicité, on parlait de ces soignants qu'il fallait réintégrer ou non, les soignants non vaccinés. On les réintègre, oui ou non?
Oui.
Alors soit
ah non
j'ai vu venir le truc là.
Soit on les réintègre, soit on les vire pour leur permettre de trouver un autre boulot.
D'accord, bon, bref, oui ou
on
non
on les réintègre, évidemment.
Oui, professeur.
Oui, mais c'est conviction.
On les réintègre, on les indemnise et on leur demande pardon.
Oh bah, allez,
non.
Non. Monsieur le député, c'est un non. Le point sur l'information, on va parler du masque. Parce que là, il ne va pas falloir nous la faire. C'est bon, on a compris la chanson. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, mais on y va tout droit. On l'a compris. On l'a compris. Le point sur l'information.
Cet invité, ce soir.
À Sarcelles, dans le Val-d'Oise, deux mineurs interpellés après l'agression d'un collégien de 13 ans. Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il rejoint un autre mineur de 14 ans, arrêté hier et dont la garde à vue a été prolongée. Vendredi, la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen devant son collège. Le mobile de l'agression reste pour l'heure inconnu. À Nice, le suspect d'un double meurtre interpellé vers midi. Un Iranien de 48 ans est repéré par trois policiers près du marché de Noël. Armé d'une machette et d'un couteau, l'homme tente d'agresser une policière, mais celle-ci y tire et le touche à l'épaule. Connu pour des faits de droit commun, l'individu était recherché depuis plusieurs jours. Il est suspecté d'avoir tué deux sans-abris, retrouvés morts mercredi. Et puis un peu de légèreté, ils l'ont fait. La France file en quart de finale du mondial après avoir battu la Pologne 3-1 grâce au nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud a ouvert le score avec son 52e but avec la sélection. Sur passe décisive de Kylian Mbappé, lui-même auteur d'un doublé. Prochaine étape, samedi, la France affrontera l'Angleterre, vainqueur 3-0 face au Sénégal.
Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Publot. La question du masque, et là aussi c'est très intéressant de voir finalement le décalage qu'il peut y avoir. La majorité nous promet que c'est une décision scientifique et pas politique. Et pourtant le COVARS, qui est le petit frère du conseil scientifique, explique que la décision elle ne doit pas être scientifique mais politique. Donc on n'y comprend plus rien. En revanche, le gouvernement temporise et on va écouter le ministre de la Santé. Il va avoir la main ferme sur le port du masque bientôt obligatoire.
Je veux montrer ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Actuellement, ce n'est pas le cas.
Charles Cizenstuhl, vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin, porte-parole du groupe. Ce masque, il va être obligatoire, oui ou non ?
J'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce que je sais, Elliot, c'est que depuis deux semaines, l'épidémie est en train de reprendre assez sévèrement. D'ailleurs, le gouvernement n'a jamais dit que l'épidémie était terminée. Je tiens à refaire ce point. Dès cet été, moi, j'ai souvenir du ministre de la Santé qui, à l'Assemblée nationale, expliquait, disait que l'épidémie n'était pas terminée, que nous devions rester prudents. Et ce qu'on voit depuis deux semaines, c'est que l'épidémie, en gros, augmente de 40% de façon hebdomadaire et qu'on est à 55 000 contaminations par jour. C'est beaucoup. Et que si on continue, on va avoir, une fin de, mois de décembre compliquée. Donc l'objectif, c'est qu'on anticipe, qu'on ne veut pas arriver dans une situation critique. Donc la Première ministre a déjà dit mardi qu'elle appelait les Français à la vigilance.
C'est-à-dire que là, on appelle à la responsabilité, puis ensuite on va mettre une nouvelle alerte.
C'est plutôt mieux de
mettre le masque. Mais attendez, que les gens veulent.
Voilà, soyons responsables.
Si les gens veulent mettre leur masque dans les transports en commun parce qu'ils ont peur, mais tant mieux que chacun. Mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent.
La responsabilité de chacun.
La responsabilité de chacun, c'est bien. Mais lorsque ça devient une obligation, c'est là où ça doit tomber.
Pour le moment, ça ne l'est pas.
Pour l'instant, non. Mais si demain ça le devient, il y a une question de non-sens. Pourquoi je vous dis ça ? Encore une fois, moi, je prends des exemples qui sont très simples. Je sors de cette émission, je prends le métro, je porte mon masque, mais ensuite je vais faire la fête, je vais au restaurant, je vais dans des endroits clos, et là je ne porte pas le masque. Quel est l'intérêt du masque si c'est obligatoire seulement dans les transports en commun ?
Les transports en commun sont quand même un lieu, notamment dans les grandes villes, les métros.
Mais alors à ce moment-là, dans tous les lieux clos, professeur.
Il y a quand même le métro et le transport sont les lieux, on va dire, typiques où il y a un brassage très important de personnes que vous ne connaissez pas, avec lesquels vous ne pouvez pas maintenir une distanciation physique. Après, votre argument est tout à fait justifié.
Dans un concert ?
Et moi, je pense effectivement, il vaut mieux en rester une recommandation, car, on va dire, si obligation il devait y avoir, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut la mettre. Dans 15 jours, c'est trop tard. Parce qu'en fait, l'intérêt d'obliger le port du masque, c'est pour ralentir la progression de l'épidémie. D'ici une quinzaine de jours, l'épidémie va se ralentir d'elle-même.
En fait, j'ai bien compris, le Covid est une histoire sans fin. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris des erreurs des années précédentes. Bien sûr que si. Ben si, puisqu'on va le faire dans deux semaines, l'obligation.
C'est même plus grave que ça.
Pas tous en même temps, les amis. Allez, qui veut y aller ? Nathan.
Moi, je veux bien dire une chose. Je trouve quand même très grave qu'on ait un ministre de la République qui vous dise « Mon bras ne tremblera pas quand je supprimerai une liberté fondamentale qui est celle de montrer son visage. » Je ne mets pas les choses sur le même plan, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une très belle journée, c'est l'abolition de la police des mœurs en Iran, c'est pas la même chose. Mais on sait qu'en France, montrer son visage dans l'espace public, c'est quand même un droit inaliénable et aucune situation sanitaire, météorologique, je ne sais quoi, ne devrait justifier d'enlever cette liberté. Qu'on ait un ministre qui dise... À la limite, il pourrait dire « Je vais le faire, mais avec les plus grands scrupules et j'aurai honte de le faire. » Non, il dit « Je n'aurai aucun problème, je le ferai sans trembler. » Premier problème. Et deuxième problème, c'est une question que j'aimerais quand même poser. C'est à un moment, vous avez des ministres, des politiciens qui passent leur journée à vous dire « Mais ça, c'est la science qui nous oblige à prendre telle ou telle mesure. » Mais dans ce cas-là, on n'a plus besoin de politiciens. On pourrait directement choisir d'avoir une intelligence artificielle, d'avoir des algorithmes qui étudient les bases de données faites par des scientifiques et qui prennent des lois. Si on a des politiciens dans une démocratie, dans un pays comme la France, c'est précisément parce que ces gens-là ne sont pas des robots, ils ont aussi un cœur, ils ont aussi un cerveau, une réflexion personnelle, humaine, et qui prennent des décisions à partir des bases de données. Mais si vous voulez, comme argument politique, ça fait deux ans qu'on entend en effet uniquement, en permanence, cet argument de dire « la science a dit que, donc nous décrétons que », c'est insupportable.
Emmanuel Macron est allé contre les décisions scientifiques.
Il l'a fait deux fois.
Contre le reconfinement et en ouvrant les écoles alors que les scientifiques lui déconseillaient. C'est quand ça l'arrange.
Je suis parfaitement d'accord avec la démonstration de Nathan. Et j'ajouterais même que la déclaration du ministre, moi, me fait froid dans le dos et m'inquiète, comme ce que vous avez dit également sur le masque, c'est que je vois se dessiner le spectre de la civilisation contemporaine hygiéniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une grippe, pour une vague de Covid, on va devoir avoir ce type de ministres qui vont arriver avec des préconisations scientifiques qui sortent de je ne sais où, de gens qui ne sont
pas. On rêverait d'avoir.
Quelqu'un qui n'est pas élu, mais qui est nommé, et qui va venir nous dire mesdames et messieurs, maintenant, moi je dis, j'ai pas la main qui tremble, on met le masque et puis c'est tout, etc. Donc si vous voulez, je suis extrêmement méfiant de cela, et je pense que dans une grande démocratie, on se grandit à avoir la souveraineté. souveraineté populaire, avoir la démocratie sanitaire, qui sont des concepts qui sont absolument absents de ce que dit ce ministre. La démocratie sanitaire, c'est consulter les corps intermédiaires avant de prendre une décision, consulter les associations. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur une chaîne d'information, il dit « mon bras ne tremblera pas et vous ferez ce que je dis ». Voilà ce qu'il fait. Et ça, c'est pas la démocratie, cher monsieur. Donc, on ne fait pas comme ça dans ce pays. On procède avec ordre, avec méthode et avec démocratie. Sinon, on verse effectivement dans des décisions pseudo-mues par la science qui ne sont en fait que des décisions d'autorité, voire d'autoritarisme. Voilà.
Marc Warneau.
Oui, juste si on peut en placer une. Pour être très bref, si on oubliait que le Covid a existé jusqu'à aujourd'hui, on oublie ça. On a aujourd'hui... Pourquoi je dis ça ? Parce que la grippe, ça tue 12 000 Français par an. Si on oubliait que le passé du Covid, et on disait, voilà, aujourd'hui, on a une maladie qui s'appelle, appelez-la comme vous voulez, et elle a tel niveau de mortalité, tel danger, telle transmission. Est-ce que on en parlait autant qu'on en parle ? Moi, je vous mets mon billet que non. Parce qu'en réalité, le Covid d'aujourd'hui n'est plus le Covid d'hier, sauf qu'on est tellement marqué par le Covid d'hier qu'on prend des mesures aujourd'hui, ou on envisage des mesures qui sont totalement décorrélées par rapport à la gravité du Covid d'aujourd'hui. Et le Covid d'aujourd'hui n'est pas le Covid d'il y a 2 ans. Le Covid d'aujourd'hui, on va vivre avec, qu'on le veuille ou non. Donc moi, les recommandations, elles me vont très bien. Je pense qu'il ne faut pas être coercitif, parce que de toute façon, on n'aura pas les moyens de faire respecter le port du masque.
Professeur, est-ce que le Covid d'hier est le même que le Covid d'aujourd'hui ?
Non, effectivement. Alors, d'abord que le ministre de la Santé prenne des décisions éclairées par les conseils scientifiques, je trouve ça plutôt bien. Au contraire, s'ils imposaient des décisions qui n'avaient aucun fondement scientifique, on serait les premiers à être alarmés de telles décisions. Ensuite, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la situation épidémique n'a plus rien à voir en termes de Covid avec ce que l'on a connu en mars-avril 2020. C'est un virus, on va dire, respiratoire, et on a les moyens de prévenir toutes les formes graves de la maladie en se vaccinant. Maintenant, le masque, j'allais dire, à mon sens, devrait relever plutôt de recommandations. Alors, là où il y a une discussion aujourd'hui, c'est que nous avons une conjonction de 3 épidémies qui, toutes les 3, se préviennent par le port du masque et qui menacent l'hôpital d'un dysfonctionnement important.
Oui, non, mais professeur, d'accord, j'entends. Mettons-le partout, dans tous les lieux clos. Mettons-le dans des salles de concert. Remettons-le, pourquoi pas, dans les restaurants. Non, mais vous savez quoi ? Faisons comme on avait fait en 2020. Mettons-le dans la rue. Dans des ruelles un peu serrées, mettons-le dans la... Non, mais vous souriez, parce qu'on va se marrer, effectivement, dans 10 ans.
Personnellement, je ne suis pas pour l'obligation. Néanmoins, je suis pour la recommandation
sur la
forte.
Sur la forme, plus que sur le fond. Et là, c'est plus les éditorialistes politiques de réagir. C'est vrai que quand on entend un ministre dire « je n'aurai pas la main qui tremble sur le masque dans les transports en commun », on aimerait peut-être... Mais c'est le travail aussi du ministre de la Justice de ne pas avoir la main qui tremble face aux délinquants. C'est peut-être du ministre de l'Intérieur de ne pas avoir la main qui tremble face à l'immigration. C'est peut-être au ministre de l'Économie de ne pas avoir la main qui tremble face à l'inflation. Donc, en fait, ces formules-là, parfois, je pense, et c'est pour ça que je suis parfois véhément, parce que les Français nous interpellent en disant « mais en fait, on se fout de nous, se moque de nous. Ils sont forts avec les faibles, faibles avec les forts. » C'est aussi ça.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la discussion que nous avons depuis quelques minutes. Parce que d'un côté, vous avez été certain sur le plateau à critiquer le fait qu'on donne une place aux données scientifiques, qu'on donne...
C'est pas donner une place. Hein.
Qu'on dise
que la décision vient des scientifiques.
On souhaite quand même à ce que les décisions
s'abriter derrière.
Soient motivées.
C'est tout à fait différent. S'abriter derrière quand ça vous arrange.
Un degré important de matière et de réflexion scientifique. Et qu'il faut laisser la main aux politiques. Et maintenant, vous dites... Ah oui, mais c'est quoi ce ministre de la Santé qui dit qu'il n'aura pas la main qui tremble ? Le ministre de la Santé, il est ministre en charge de la santé des Français. Mmh. Ce type de décision lui revient, où il les soumet in fine au président de la République et à la Première ministre. C'est quand même son travail. Donc au bout d'un moment, vous ne pouvez pas dire on ne comprend pas que vous laissiez tant de place aux scientifiques, et quand le politique informé du scientifique, parce que le ministre de la Santé, il a quand même des spécialistes qui l'alimentent pour prendre des décisions ou soumettre des décisions au chef de l'État, fait son travail de politique. Il y a une contradiction
Vous aussi, il y a une contradiction, cher Charles. Vous savez pourquoi ? Parce que vous m'avez dit le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, ils ne tremblent pas sur l'immigration. Non. Ça fait juste 3 jours qu'il y a 320 migrants qui sont au pied du Conseil d'État, qui se sont installés dans le froid et qu'il ne se passe strictement rien. On tremble ou on ne tremble pas ? On a la main ferme ou on n'a pas la main ferme ? Factuel, ça fait 72 heures qu'il y a 320 migrants qui se sont installés dans le froid au Conseil d'État, et ils étaient à Ivry depuis 6 mois. Donc en fait, les gens, ça percute. il y a des phrases qui ne passent plus. Voyons le sujet de Mathieu Rio sur le masque obligatoire. On continue de parler de ce sujet.
Faut-il porter de nouveau le masque dans les transports en commun ? Obligation ou non, certains Français l'ont déjà remis sur le nez.
Mais si on peut le mettre, c'est bien.
Je le porte le masque parce que c'est pas fini le Covid déjà. Et même pour se protéger tout simplement.
Je ne l'ai jamais enlevé.
A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu.
C'est hyper gênant et moi ça m'a foutu des boutons partout. Pendant le Covid et tout ça, je suis content qu'on en soit débarrassé.
Face aux épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastro-entérite, il n'y a pas eu ou très peu de bronchiolite.
À l'approche des fêtes de fin d'année, le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner.
Regardons un peu les chiffres de cette 9e vague de Covid. 40 000 cas positifs ont été recensés en 24 heures, en hausse de 6% par rapport à dimanche dernier. Il faut faire attention parce que, effectivement, ça peut être sous-estimé avec la grève des labos. La moyenne, elle est de 55 000 cas par jour. C'est en hausse de 28%. Et là aussi, c'est également très intéressant, et c'est Nicolas Béraud du Parisien qui nous dévoile ces chiffres. François Braun qui a indiqué qu'on est autour de 20% des vaccinés cet automne chez les plus de 80 ans et 35 à 40% chez les 60-79 ans. Il s'agit en réalité du taux de personnes suffisamment protégées, soit par la vaccination, soit par une infection. Et donc, ce n'est pas forcément la vaccination.
Le chiffre important,
mais
c'est celui-là.
Bien sûr, c'est la vaccination, la vaccination des plus fragiles qui n'est pas effectuée.
Le problème est là, effectivement. Le rappel taux de vaccination par la deuxième dose de rappel, ou la troisième chez certains, est très insuffisant. Notamment, par exemple, quand on regarde au Royaume-Uni, où 85% de la classe d'âge de plus de 60 ans a reçu une dose de rappel par le vaccin bivalent. Et donc, c'est vrai qu'on est très en retard. Et ça, probablement, est lié au fait que la campagne de vaccination n'a pas bien fonctionné à nouveau cette fois-ci.
Mais il n'y a pas eu de campagne. Il n'y a pas eu de campagne nationale de l'exécutif. 10 ans, pourtant, on en a eu, des campagnes. Allez-vous faire vacciner, des spots, tous vaccinés,
on
tous
était
protégés.
Sur
Jeta,
j'allume, je sais pas quoi.
On était saturés. Et là, plus rien.
Et en fait, au Royaume-Uni, les personnes ont reçu des courriers à domicile.
Personnalisés.
Et c'est vrai que c'est seulement comme ça, en allant vers, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, en allant vers, en vaccinant, qu'on peut réussir une campagne de vaccination.
Autre question, professeur Megarban, je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Vous triez les patients ou pas ? On peut parler de tri à l'hôpital ?
Alors, le tri, si c'est dans le sens vie ou mort, non, évidemment. Par contre, si c'est, on va dire, offrir à certains patients la possibilité d'avoir des soins plus optimaux qu'à d'autres, très probablement. Alors c'est un tri essentiellement qui se fait, on va dire, par ordre d'arrivée quasiment. En fait, malheureusement, souvent, lorsqu'on a une place, eh bien, on l'occupe par le premier patient qui arrive et qui a besoin des soins correspondant à cette place. Et puis les suivants, eh bien, on va devoir les prendre en charge de façon moins optimale, soit sur des brancards, soit on devra les transférer avec les risques inhérents au transport vers un autre hôpital. Et de fait, évidemment, les choses sont moins optimales. Donc, on a l'impression, si vous voulez, que tous les jours aujourd'hui, pas seulement en période de crise ou d'épidémie, en permanence, malheureusement, nous devons faire avec des moyens insuffisants et nous devons prendre les patients en charge d'une façon que l'on ne recommande pas nous-mêmes. Vous voyez, moi, je suis professeur, j'enseigne la médecine et le matin, j'enseigne des choses et le soir, j'applique différemment.
Bien sûr.
Et je n'applique pas ce que je fais par manque de moyens.
Quasiment 22h50 sur CNews. On est toujours en direct dans Soir Info Week-end avec Nathan Dever, avec Marc Varnaud, Judith Vintraud, Paul Melun et Charles Sijenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin et porte-parole du groupe à l'Assemblée. Pour l'instant, le port du masque, et ce sera le mot de la fin sur cette thématique-là, n'est pas obligatoire. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se prépare, qui est réfléchi par la majorité aujourd'hui ?
Je vous ai dit avant, moi, j'ai pas de boule de cristal.
Le ministre. Pas dit, est-ce qu'il sera obligatoire ? Est-ce que c'est une réflexion qu'il y a ?
Je n'ai aucune information là-dessus. Voilà. Okay. Je pense que l'objectif, c'est de ne pas y arriver. Et ça se joue maintenant, avec les comportements individuels.
Il y en a un qui a fait tomber le masque aujourd'hui. Oui, il l'a fait tomber sur la question migratoire. Mais c'est tout autre chose. Emmanuel Macron, dans un entretien à nos confrères du Parisien. Franchement, c'est très intéressant et je pense que ça promet un débat passionnant. Il a dévoilé sa vision à quelques semaines de la présentation du projet loi Asile-Immigration et voilà ce qu'il dit. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays et on a toujours eu besoin pour notre économie. Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration ? Il faut avoir l'honnêteté de le dire, la réponse est non. Ce qui est important, ce qui est peut-être vraiment, là pour le coup c'est très intéressant, c'est de savoir si vous pensez que la France est une terre d'immigration, que c'est dans l'ADN de la France la question migratoire. Paul Melun d'abord.
Je pense que non. Et je pense, si vous voulez, je suis un peu interloqué par cette déclaration du président de la République, parce que malgré tous les désaccords que je peux avoir avec lui, je pense que c'est un homme de culture qui connaît son histoire. Et tout homme sérieux, digne de ce nom, qui connaît son histoire, ne peut pas dire que la France a toujours été une terre d'immigration. Parce que c'est faux, factuellement. Sauf à ce que le président de la République considère que toujours, c'est à peu près le milieu du 19e siècle. Parce qu'effectivement, depuis la révolution industrielle, depuis le milieu du 19e siècle, depuis 1850 à peu près, effectivement, nous avons recueilli une immigration qui était sans commune mesure, naturellement, avec l'immigration d'aujourd'hui. Il y avait à peu près 300 000 Italiens en France en 1901. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas le même nombre d'immigrés en termes de ratio de population. Et si on va plus loin que 1850, eh bien là, on n'a pas du tout affaire à une terre d'immigration. Hein, on peut remonter à moins 1200, la culture Hallstatt, la civilisation celte. Hein, on a à peu près 1200 ans d'histoire.
Et alors pourquoi
ça.
Il dit ça.
Après, on continue.
Mais pourquoi
de 650 jusqu'à 1850, il n'y a pas eu de grand mouvement de population.
Mais pourquoi
France,
il dit ça selon vous Paul
il
Melun.
Le dit parce que, si vous voulez, je ne sais pas,
c'est quoi,
si,
c'est une vision
je ne sais pas si l'immigration, c'est dans l'ADN de la France, mais en tout cas, c'est dans l'ADN du président. C'est-à-dire que lui, c'est un immigrationniste, M. Macron, et qu'il considère comme le grand patronat allemand, comme les mondialistes de tout poil le considèrent depuis près d'un demi-siècle, que eh bien, l'immigration est le salut de l'Europe, que l'immigration est le salut de l'Occident, parce que nous ne faisons pas assez d'enfants, parce que nous avons besoin de l'immigration pour nos emplois et pour notre économie, que l'immigration, c'est bon pour l'économie. Et M. le Président de la République fait fi de questions civilisationnelles ou culturelles. C'est la raison pour laquelle il est favorable à une immigration massive.
Sarchinensoul, qu'est-ce que vous répondez à cela? La France, c'est dans l'ADN de la France, l'immigration.
Je pense que ce que le Président a voulu dire, c'est que depuis à peu près un siècle et demi, la France connaît des vagues migratoires successives. Qui sont venus du sud de l'Europe, qui sont venus de l'est de l'Europe. Par exemple, moi, mon arrière-grand-père, il est d'origine polonaise, comme des centaines de milliers de Français, une assimilation qui s'est faite en une génération, sans aucune difficulté, et puis qu'ensuite, il y a eu les dernières vagues migratoires, après la Seconde Guerre mondiale, venues plus du Maghreb et de l'Afrique. Et que
avec
ça,
la
c'est
même
une réalité de la France depuis un siècle, avec des succès et des degrés d'assimilation contrastés, et que le sujet qu'on va avoir devant nous, et qui va arriver mardi à l'Assemblée nationale, puisqu'on aura un grand débat sur l'immigration, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les futurs les immigrés qui continueront à venir demain, parce qu'il n'y aura jamais d'immigration zéro, ça n'existe dans aucun pays, s'assimile totalement.
Alors. Marc Varnaud, mardi, donc il y a le projet de loi, mais quand on entend le président de la République dire « la France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN », on nous promettait de la fermeté, on nous promettait un meilleur contrôle des flux migratoires. Quand vous lisez cela, qu'est-ce que vous répondez au président? En tous les cas, vous attendez à quoi?
Je réponds faux. Effectivement, la France est une terre d'immigration depuis 150 ans. Elle a été une terre d'immigration d'ultra-proximité pendant 100 ans. La France n'est pas les États-Unis ou l'Australie, qui sont des pays qui sont construits sur l'immigration. Je crois que les mots sont importants. Quand le président dit « la France est une terre d'immigration », on a l'impression qu'il parle de l'Australie ou des États-Unis. Non, la France n'est pas une terre d'immigration depuis, effectivement, avant le milieu du 19e siècle. La deuxième chose, c'est que ce parallèle qu'il fait avec « on a besoin de main-d'œuvre pour tel et tel métier », moi j'ai envie quand même de lui rappeler qu'on est sans doute le dernier pays de l'OCDE qui ne vont pas réformer en profondeur le système du chômage en France, à telle enseigne qu'on continue à indemniser certains chômeurs sur plus de 30 mois, on a encore 5 millions de chômeurs qu'on le veuille ou non, 1 million d'emplois non pourvus, et la réponse du président c'est « allons chercher ou régularisons des étrangers ». Je pense que il faut quand même voir un certain nombre de choses, un certain nombre de choses avec objectivité. Je pense que le jour où il y aura le plein emploi en France, on pourra peut-être dire, ben voilà, il nous faut de la main-d'œuvre qui vienne de l'étranger. Entre-temps, arrêtons de former des gens à des métiers qui mènent au chômage, formons des gens aux métiers qui sont aujourd'hui en tension, soyons honnêtes et donnons les vrais chiffres sur les emplois non pourvus puisque comme vous le savez, aujourd'hui un emploi non pourvu en France, la définition c'est quoi ? C'est quelqu'un, c'est un patron qui est allé chercher à Pôle emploi, qui est allé déposer une demande à Pôle emploi. Vous imaginez bien que les trois quarts des employeurs en France n'y vont pas.
Sur la question migratoire.
Pardon ?
Oui, il ne faut pas avoir qu'une lecture économique de l'immigration.
Il a parlé d'économie et d'emploi.
Oui, mais enfin, il a surtout. Non, mais il a parlé d'économie et d'emploi, mais il a surtout dit que la France était une terre d'immigration et que c'était l'ADN. Oui. Est-ce que, Julie Vintraume, vous êtes d'accord avec ça ?
Non.
L'ADN français, c'est l'immigration.
Je ne suis pas d'accord pour toutes les raisons qu'a très bien dites Paul Melun, mais surtout, je pense que ça. En fait, ça. But, c'est d'évacuer complètement le problème de l'assimilation, ouais. Le problème de la dépossession culturelle pour le faire passer pour un problème purement quantitatif. Ce que ça n'est pas. Ça n'est pas un problème purement quantitatif. Et non, l'immigration subsaharienne ou maghrébine n'est pas le même problème que l'était l'immigration polonaise ou italienne. Et ça, il ne veut absolument pas en parler. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, en situation de majorité relative, il ne va pas rajouter de l'huile sur le feu pour que la gauche de sa majorité à lui déjà soit hérissée et puis la gauche dans son ensemble.
Éric Zemmour en meeting lui a répondu, on parlera d'ailleurs d'Éric Zemmour dans cette émission, mais il lui a répondu en meeting au Palais des Sports aujourd'hui. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. Nathan Devers, quel regard vous portez sur cette phrase du président de la République ?
Je pense d'abord qu'il faut distinguer droit d'asile et immigration. Je le répète souvent. La France a toujours ou presque été une terre de droit d'asile. Même avant la Révolution française, où c'est devenu officiel, juridique, c'était dans la tradition chrétienne, particulièrement française, que d'accueillir les gens qui étaient... Alors, c'était pas vraiment du droit d'asile, ça se formulait pas dans ces termes. Oui, et en effet, le droit d'asile, c'était
résiduel. Pas beaucoup de monde.
Deuxièmement, la France n'a pas toujours été historiquement une terre d'immigration, mais la France moderne s'est définie quand même politiquement, comme vous le disiez, d'ailleurs, j'étais d'accord avec sur votre généalogie historique, comme une terre d'immigration. Mais, et c'est à mon avis le principal, moi, ce qui me gêne dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est ce prisme purement économiste. C'est-à-dire d'estimer, et j'étais d'accord avec vous aussi là-dessus, que quand il y a un sujet majeur sur l'identité d'un pays, quelles que soient nos opinions, hein, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est pas le sujet, que le seul prisme, c'est un prisme de chiffres, et en plus avec un argument, si vous voulez, hein, qui est quand même... Marx a beaucoup analysé ça quand il parlait des liens entre une certaine forme d'immigration et une certaine forme de capitalisme, c'est que là, l'argument, c'est en gros de dire les métiers que les Français veulent plus faire, on va les donner
l'immigration
à
l'immigration Uber Eats, l'immigration Deliveroo, bien évidemment.
Pour baisser les conditions de travail.
Oui.
En revanche, moi qui suis favorable à l'immigration, je pense que c'est un tout autre logiciel qu'il faut mobiliser, qui est une raison politique. C'est que la France moderne, il y a eu dans les années 1870-1880 un grand débat sur l'Alsace-Lorraine qui a posé la définition de la France. Et la définition qui s'est imposée, celle d'Ernest Renan, c'est de dire être français, c'est pas être né en France, c'est pas être fils de français, c'est pas avoir un lien avec la terre de France, c'est avoir un lien avec l'idée, le désir d'être français.
Mais ce désir d'être français, il n'existe plus, Nathan Devers. L'immigration aujourd'hui ne correspond plus à l'immigration qu'il y avait dans les années 60, 70 ou 80. Vous êtes bien d'accord ?
Je pense qu'il faut qu'on observe aujourd'hui des désirs d'être français qui sont différents, comme à chaque étape, qui se remodèlent, qui se recristallisent.
Mais ça ne marche pas avec l'immigration. Je suis assez d'accord avec vous.
Oui.
Et je crois qu'effectivement, je rejoins le propos qui consiste à dire que finalement, on est tout le temps en train de nous corréler les données économiques pour justifier l'immigration. Vous voyez ? Et là, c'est effectivement un vrai sujet parce que c'est deux sujets qui sont complètement décorrélés, mais que les politiques corrollent sans arrêt. Par exemple, moi, un truc qui me choque, c'est qu'on ne parle plus jamais du statut du travailleur immigré qu'on a fait disparaître. Pourquoi en France, on ne pourrait pas faire venir des gens pour travailler pour une période donnée et puis après, ils rentreraient chez eux, comme ça se passe dans les trois quarts des pays du monde. Pourquoi on a décidé, il y a 30 ans, je crois, d'éliminer ça ? C'est incroyable.
Parce que le travailleur détaché est un statut qui est autorisé.
Mais justement, je trouve qu'on s'y perd un peu en restant sur la partie économique. Moi, je veux vraiment rester sur l'esprit français.
Un chiffre sur la partie économique. Un chiffre.
Le président. Pas sur l'économie, mais allez-y, je vous dis de ne pas aller sur l'économie, on va sur l'économie.
Un chiffre. Emmanuel Macron dit on manque de bras dans la restauration. Il y a aujourd'hui 50 000 cuisiniers inscrits à Pôle emploi.
Non, mais.
J'ai fini.
Alors. Moi, je voudrais juste faire écho à ce que disait Nathan, qui faisait aussi un plaidoyer pour, eu égard les propos de Renan, pour l'immigration dans sa vocation, disons, culturelle ou civilisationnelle. Je pourrais théoriquement être d'accord avec Nathan, si tant est qu'il s'agissait effectivement de personnes bénéficiaires du droit d'asile et d'une petite minorité et de gens qui font le choix de la France. Mais quand vous avez une vague, un déferlement de plusieurs centaines de milliers de personnes, évidemment que ce que vous dites là est très théorique et que ça ne s'appliquera pas.
Et c'est l'analyse de Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui dans le grand rendez-vous invité de Sonia Mabrouk. Il dit c'est une bombe à retardement, cette immigration massive. Écoutez.
Moi, je vois la réalité. Et comme tous les Français, c'est qu'Emmanuel Macron ne maîtrise rien.
et que l'immigration submerge la France, c'est tout. Et que cette immigration n'est pas bonne pour ceux qui arrivent, parce qu'ils espèrent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc on ne leur offre pas le rêve de leur vie, et ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d'origine si on aidait ces pays et qu'on avait une vraie politique pour l'Afrique notamment. Et puis ils alimentent des tensions dans notre pays terribles. On ne se rend pas compte qu'on est en train, depuis des années, d'alimenter une bombe.
Une bombe
à retardement, oui, une bombe à retardement. Parce que moi, je ne me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai pas envie de voir ça. Sans parler du problème financier, parce qu'on est quand même le seul pays au monde qui finance tout cela. Donc, c'est un coût exorbitant pour les finances publiques.
C'est intéressant ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, et vous allez répondre à Charles Sizenchoul. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'immigration qui est une bombe à retardement. C'est l'immigration massive, c'est l'immigration incontrôlée, c'est l'incapacité à réguler ces flux-là. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Bon, comme toujours avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est excessif, et moi je reprends ni les termes ni l'esprit de ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. Ce que je sais en revanche, c'est que dans notre politique migratoire, on a connu une césure après la Seconde Guerre mondiale. Et que d'ailleurs ça s'est documenté par des chiffres qu'on trouve à l'INSEE, hein, qui sont publics. C'est que la part d'immigrés dans la population en pourcentage a augmenté de façon significative à partir de la moitié du XXe siècle. Et que la société française n'a pas été en capacité de suivre et d'assimiler en totalité toute cette nouvelle immigration. Et on voit toujours aujourd'hui les problèmes.
Oui, il y a quand même dans la deuxième partie du XXe siècle deux types d'immigration. Pardonnez-moi,
les problèmes culturels, sécuritaires, économiques. Que posent ces vagues migratoires qui n'ont pas été en totalité assimilées. Et je pense que c'est une partie importante débat que nous devons avoir. Et moi, j'attends de voir ce que dira mon gouvernement mardi sur ce sujet.
Malheureusement, parce qu'il y a cette mesure-là, parce qu'il y a ce nouveau projet, parce que vous avez parlé de votre grand-père qui vient de
Cologne,
arrière-grand-père qui venait de Cologne. Justement, cette assimilation-là et cette immigration-là,
fonctionnait à l'époque.
Elle fonctionnait.
Et beaucoup moins
aujourd'hui,
maintenant.
elle est devenue exceptionnelle. C'est plus la norme, malheureusement.
Je suis bien d'accord avec ça. Et juste pour terminer, parce que dans la présentation qui a été faite des propos du président de la République, vous faites référence à l'interview du Parisien aujourd'hui.
Oui.
Vous restez sur la première question. Il y a plusieurs questions sur l'immigration.
Oui.
Et à la fin, le président de la République
c'est en même temps,
explique que l'objectif de la loi que présentera Gérald Darmanin, c'est la fermeté aussi.
Et l'humanité. Il rajoute l'humanité.
Et que l'intégration des futurs immigrés sera un axe clé de la future loi. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué sur ce sujet, parce que les gens de gauche, vous nous taxez d'être beaucoup trop durs sur la politique migratoire, et puis les gens très à droite vont dire qu'on est laxiste.
Ah, parce qu'il y a les gens de gauche et les gens très à droite. Il n'y a jamais de normes.
C'est gens très à gauche, gens très à droite.
Ah, c'est seulement les gens très... Parce que vous êtes très au centre. Donc,
moi, je suis à droite. Je suis à la droite de la Macronie.
Vous êtes l'aile droite de la Macronie, comme Gérald Darmanin, qui se disait d'être l'aile gauche de la Macronie. 23h, le point sur l'information. Est-ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche? Et on continue le débat.
Les trafics illicites de tabac explosent en France. Le ministre des Comptes publics dévoilera demain un plan de lutte qui s'étendra de 2023 à 2025, avec parmi les mesures phares le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayon X, capables de passer au crible un véhicule en une minute. Cette année, plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies par les douanes, contre 400 tonnes l'année dernière. Dimanche prochain, nous connaîtrons le nom du nouveau président des Républicains. Éric Ciotti et Bruno Retailleau se sont qualifiés pour le second tour de l'élection. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a récolté 42,73% des suffrages contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR. Le député du Lot, Aurélien Pradier, est lui éliminé avec moins de 23% des voix. Et puis le Téléthon s'est achevé avec au compteur plus de 78 millions d'euros de promesses de dons. C'est mieux que l'année dernière. Les 30 heures de programme pour cette 36e édition sont terminées, mais la générosité est continue. Les dons peuvent encore être faits jusqu'au 9 décembre par téléphone au 3637 ou sur téléthon.fr.
Attendez, voilà pour le point sur l'information. On est toujours, il est 23h avec Nathan Dever, Marc Varnaud, avec Judith Vintraub, avec Paul Melun, Bruno Mégarbal, chef du service de réanimation à l'hôpital La Rabouazière. On reviendra sur la crise sanitaire dans cette émission. Et évidemment avec Charles Sizenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin, porte-parole du groupe. On a entendu tout à l'heure le ministre de la Santé qui a dit « je n'aurai pas la main qui tremble sur le port du masque ». Et je vous ai dit, c'est très intéressant cette expression-là, la forme et le côté très ferme du ministre de la Santé. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que pour ce qui est de la justice, pour ce qui est de l'intérieur, pour ce qui est de la sécurité, de l'immigration, j'ai l'impression que cette main, elle tremble un peu et que c'est facile d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Un exemple parfait, ce qui se passe depuis maintenant 72 heures devant le Conseil d'État à Paris, en plein cœur de la capitale, vous avez un camp de migrants qui s'y est installé. Vous avez 320 migrants qui n'ont pas été reconnus comme mineurs par les autorités départementales. Elles ont déposé des recours, bien aidées par les associations. Ça prend énormément de temps, ça prend des mois ces recours. Et elles étaient installées au niveau d'Ivry, à une dizaine de kilomètres de Paris. Et avec l'aide, bien évidemment, des associations, elles ont monté une action dite coup de poing. Et ça fait donc 3 jours que devant le Conseil d'État, à 2 pas du Louvre, vous avez 320 migrants qui se sont installés. Voyez le sujet de Mathieu Rio et on en parle juste après.
La scène surprend les passants et les touristes venus visiter la capitale. Un camp de fortune de 300 jeunes immigrants installés par plusieurs associations sur la place du Palais Royal, juste en face du musée du Louvre et du Conseil d'État.
C'est assez surprenant, c'est vrai qu'en sortant du métro, on ne s'attendait pas à voir ça. On ne voit pas exactement quel est l'intérêt de venir ici en plein milieu, dans le froid. L'idée, c'est pas de les loger ici, c'est clairement de faire une action médiatique.
Mais c'est au moins c'est visible. Si c'est pas devant le Louvre, si c'est au fin fond de la banlieue, personne ne le saura.
On n'est pas choqué. C'est à Munich, c'est à Berlin, c'est partout pareil.
C'est vraiment important que les politiciens fassent plus pour ces personnes.
Dans les environs, certains commerçants sont directement impactés par l'installation de ce camp improvisé. C'est le cas de Thibault, gérant du café Palais Royal. Il assure avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires journalier.
Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici, en fait. Vu que le Louvre est juste derrière, le Louvre a fermé ses portes et de ce fait, on n'a pas de retour de touristes.
Les associations qui soutiennent ces migrants l'affirment. Ils resteront sur place jusqu'à ce que l'État leur accorde des hébergements d'urgence.
Voilà pour les images et voilà ce qui se passe maintenant en plein cœur de Paris. Vous répondez quoi ? Qu'est-ce qu'on fait depuis 3 jours ?
Je trouve
ça ne bouge pas.
Vraiment, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable pour l'image de Paris. Je trouve ça déplorable pour l'image de la France. Et si se trouve que ces personnes-là, effectivement, n'ont pas droit au titre auquel ils prétendent, moi, j'espère qu'ils seront expulsés de notre pays le plus rapidement possible. Mais vraiment, moi, ça me scandalise.
Mais j'entends, mais ça scandalise énormément de monde. Mais pourquoi on ne démantèle pas ce camp ?
Bah écoutez, les services du ministère de l'Intérieur, je suis le sujet. Moi, j'espère qu'ils seront expulsés rapidement. Enfin, c'est mon souhait. Là, je vous parle comme député.
Eh ben, le député que vous êtes, moi, je vais vous poser une autre question. En 4 jours, en moins d'une semaine, ce camp, il va être démantelé. Soyons sérieux, on le sait très bien. Vous mettez une semaine pour démanteler un camp avec 320 migrants parce que c'est au cœur de Paris. Quand c'est Porte de la Chapelle, ça prend un an. On se moque de qui ?
Alors, Porte de la Chapelle, c'est effectivement une situation là aussi qui est déplorable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un nouveau préfet qui a été nommé.
Oui.
N'importe quel des préfets, qui est Laurent Nunez, qui a ça dans sa feuille de route prioritaire. Et effectivement, sur ces sujets, moi, je ne comprends pas aussi que nous ne soyons pas plus rapides et que nous ne soyons pas plus fermes.
Alors, si je peux me permettre, le cœur du problème, c'est que l'État sous-traite à des associations qui sont pour que qui veut venir en France puisse venir, la gestion des demandeurs d'asile et la gestion des migrants. Parmi ces associations, il y en a certaines qui sont bien connues, qui sont payées par notre argent, qui instrumentalisent ces migrants au service d'une idéologie. Et c'est l'État qui s'est défaussé sur elles. Des centres d'hébergement, de la gestion médicale, sanitaire et sociale.
Mais Judith Vintraub,
c'est avec l'argent
je suis membre de cette association, je regarde Le Parisien ce matin avec ce camp, pas très loin du camp, et je lis le président de la République, et je lis « La France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN ». Je me dis « Banco, je fonce, je continue mes actions coup de poing, il faut même aller encore plus loin ».
Et je crois que je rejoins 100% de ce qui a été dit, et c'est surtout une aide juridique, hein. Soyons aussi clairs là-dessus.
C'est-à-dire c'est aussi que dans l'hébergement.
L'hébergement, non, mais l'aide juridique, parce que dans le pays des 400 000 normes, des 15 000 lois et des 135 000 articles de loi, il y a tout ce qu'il faut pour bloquer toutes les procédures lorsqu'on est un migrant en situation illégale. Et l'association en question, Utopia 56, elle est experte sur le sujet. J'aimerais quand même souligner que si vous faites des travaux chez vous et que vous vous occupez de 2 mètres carrés de la chaussée à Paris, vous allez avoir la police dans les 10 minutes. Par contre, si vous êtes en face du Conseil d'État avec des gens en situation irrégulière, là, effectivement, au bout de 72 heures, il se passe absolument rien. La vraie question qui se pose, c'est qu'arrivé un moment, il faut être clair, quoi. Soit ces gens, on dit voilà, nos portes sont ouvertes, vous venez, on vous accueille, soit on vous expulse. Mais il faut avoir des lois et des textes aujourd'hui qui permettent de faire les choses. Or, aujourd'hui, on a un blocage total. C'est-à-dire que l'État ne peut plus rien faire. Et malgré la volonté de tous, y compris du député qui est en face de moi, qui trouve comme nous que cette situation est scandaleuse, l'État est totalement impuissant.
C'est de l'impuissance de l'État, Pierre Gentil, Paul Melun. Allez-y, Paul.
Non, je pense que c'est encore plus grave que de l'impuissance. Je pense qu'il y a une absence de volonté politique idéologique. En fait, vous avez raison, Eliott, de faire le lien avec notre sujet précédent sur la déclaration du président. C'est-à-dire, quand vous avez un président de la République qui considère que l'immigration, finalement, c'est une chance pour la France et qu'il y a eu toujours, et que la France est une terre d'immigration, eh bien derrière, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ce type de situation. Si on veut parler de démantèlement, etc., si M. Darmanin arrive demain et nous dit on va faire le démantèlement, qu'il fait ses gros bras, etc., mais c'est des vœux pieux. Du moment que les frontières de l'Union européenne sont une passoire et du moment qu'on est ouvert aux quatre vents, qu'on sous-investit dans Frontex, que le patron de Frontex est poussé à la démission, qu'on n'investit pas dans la protection de nos frontières, que les députés refusent, les députés européens, de voter la mise en place de barrières au pourtour de l'Union européenne, eh bien détente comme ça, vous n'aurez pas 300, vous n'aurez 3000.
Mais demain, Paul Melun,
on fait semblant d'agir, mais on veut pas agir.
Demain, je suis habitant pas loin du pont d'Ivry ou porte de la Chapelle et je vois que ce camp est démantelé la semaine prochaine, je crie au scandale. Je dis, on se moque de nous. En fait, on n'est rien. C'est parce que là, on est à deux pas du Louvre, parce que c'est un lieu touristique, parce que finalement, ces images, elles vont faire le tour du monde. Mais ces images, elles vont faire le tour du monde, évidemment. Vous avez tous les touristes qui arrivent en disant, j'étais au Louvre, je suis passé devant un camp de migrants, il y avait 320 tentes.
Il y a un statut, il y a quelque chose qui a été inventé il y a quelques années.
Et personne n'en parle.
Qui s'appelle le DALO.
On est les seuls à traiter
le droit au logement opposable. Et ce droit au logement opposable est détourné par ces associations qui disent effectivement au pouvoir public, attendez, vous allez les déloger. Mais vous les relogez où ? À nulle part. Mais on ne pouvait pas les déloger.
Nathan Devers sur ces associations qui, franchement, disons-le, c'est terrible ce qu'elles font. Elles vont utiliser des gens.
Elles vont
utiliser des personnes pour une action politique en disant « Non mais là, Pont d'Ivry, ça fait 6 mois que vous y êtes, vous avez vu, ça ne bouge pas. Allez, je vais vous amener devant le Conseil d'État. Vous allez aller en plein cœur de Paris. Je vais vous donner des tentes, des couvertures. » Il fait à peine moins 2 aujourd'hui dans la capitale, dans le froid.
Bien sûr, c'est un argument qu'on entend souvent dans le débat public sur l'immigration. Des gens qui sont anti-immigration disent souvent « Oui, mais vous dites que vous êtes pour l'immigration parce que vous n'habitez pas dans les quartiers concernés. Si les migrants venaient dans les beaux quartiers, vous changeriez sans doute d'avis. » Et si vous voulez, ça montre bien cette question de la visibilité des camps de migrants. Moi, je trouve que c'est, si vous voulez, quand les mêmes camps sont situés dans des quartiers défavorisés, qui ne sont pas habités par une certaine bourgeoisie, en l'occurrence ici parisienne, on en parle beaucoup moins. Enfin, ici, on en parle quand même, mais je veux dire, ça suscite beaucoup moins l'indignation et on estime beaucoup moins que c'est quelque chose de problématique. Mmh. Je trouve, pour ma part, c'est une opération, il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est évidemment, et vous avez raison, une opération de communication, mais je trouve ça assez sain, si vous voulez, qu'on invite cette problématique, qui est une problématique majeure, quoi qu'on en pense, dans les beaux quartiers. Parce que si vous voulez, il y a quand même une chose sur laquelle on est sans doute tous d'accord, le concept de bobo, sociologiquement de bobo, ça veut dire quelqu'un qui est bourgeois économiquement, qui habite dans les beaux quartiers, mais qui a des positions politiques bohèmes, c'est-à-dire, entre guillemets, pour les défavoriser. C'est une position qui est contradictoire. Et je trouve ça bien que ces problématiques-là s'invitent dans les quartiers, si vous voulez, qui vivent à l'abri de ce genre de sujet.
Il faudrait quand même qu'on en rajoute quelques camps de migrants. Alors à ce moment-là, peut-être devant l'Élysée, ou pourquoi pas, c'est ça que vous voulez dire? Ou allez, allons-y, continuons, au niveau du jardin du Luxembourg, place de la Bastille.
Ce que je dis, c'est que les camps de migrants, c'est des conditions de vie.
Je plaisante bien évidemment, oui, non, et j'ai pas envie de rire là-dessus.
Moi, je vous
c'est bien
triste
parce que moi, je dis, il faut aucun camp dans la rue, parce que c'est horrible pour ces personnes-là. C'est terrifiant de voir ces situations.
Je suis d'accord.
Et la main qui tremble, la main ferme, là, elle y est pas.
Je vous réponds pour le coup sans plaisanter. Que les camps de migrants, c'est premièrement des conditions de vie inhumaines, absolument inhumaines. Là, on voit des tentes, etc. Mais quand c'est sous des ponts, avec des rats, c'est absolument inhumain. C'est dangereux souvent pour le voisinage. Il y a toutes sortes de trafics qui peuvent s'installer, etc.
On en revient donc donc à la citation et à la déclaration d'Emmanuel Macron. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays. Et on a toujours eu besoin, on en a toujours eu besoin pour notre économie. Quel exemple c'est, ça, cette immigration-là et ces camps-là, Charles Jensstuhl? Est-ce que c'est pas là la plus grande faille? C'est-à-dire que la masse, le flux qui est tellement important, fait qu'aujourd'hui, la France n'est malheureusement, peut-être diront certains, plus une terre d'accueil.
Le problème qu'on voit, c'est probablement celui du détournement des procédures et qui renvoie en fait au sujet de l'asile et ou des mineurs accompagnés, qui se recoupent parfois et pas toujours. Et d'ailleurs, sur la loi immigration, dont on aura un avant-goût mardi à l'Assemblée lors du débat et puis surtout au printemps lorsque le ministre viendra la défendre, le durcissement des règles sur l'asile est un axe majeur du projet de loi qui sera présenté par le gouvernement. On veut réduire drastiquement les délais d'instruction, les voies de recours, parce qu'on sait qu'il y a des détournements qui sont faits. Et qui est, d'ailleurs, ces détournements dévoient l'objectif de l'asile. Et là, je rejoins ce que Nathan Dever a dit tout à l'heure. La France a utilisé historiquement l'asile. Ça fait partie de notre tradition politique. Et l'asile doit être réservé effectivement aux personnes qui sont en danger politique, qui sont tyrannisées dans les pays où ils vivent et que nous souhaitons accueillir parce que derrière, il y a un projet politique.
Moi, j'ai juste une question, peut-être à Paul Melun, j'ai oublié de vous la poser, mais cette phrase de « la France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN », ça me fait penser à cette phrase qu'avait eue Emmanuel Macron « il n'y a pas de culture française ». J'ai l'impression qu'il y a une idée de déconstruction du côté du président de la République. On oublie l'histoire, la culture, l'histoire française au-delà des décennies.
C'est à mettre en regard. Effectivement, vous avez raison de prendre ces deux phrases et de les apposer parce qu'elles disent beaucoup du président de la République. Et comme je le disais en introduction de mon propos tout à l'heure, le président connaît trop bien son histoire pour dire une bêtise pareille dans ces deux phrases. Il sait très bien que ce n'est pas le cas. Quand on dit toujours, le mot toujours, il a un sens. Quand on dit le mot toujours, ça veut dire que de tout temps, d'éternité, la France a été une terre d'immigration. Et on a expliqué que c'était totalement faux. Par conséquent, ou le président ment à dessein, ou alors il n'a pas de culture. Comme il est cultivé, je pense qu'il nous ment. Et donc, si vous voulez, après une telle déclaration d'intention, c'est difficile de croire monsieur et de croire les bonnes intentions du ministre Darmanin, qui, par certains égards, a raison quand il dit qu'il veut maîtriser l'immigration tout en sanctuarisant le droit d'asile, je suis d'accord avec vous. Mais quel crédit apporter à la parole politique quand vous avez ce type de déclaration juste avant
SOS Méditerranée.
Mais en fait, c'est la grande stratégie macronienne, c'est la versatilité politique.
Il est 23h15, si vous nous rejoignez sur CNews, on est ensemble encore pendant une bonne quarantaine de minutes, toujours avec Nathan Dever, avec Marc Varnaud, Judith Vintraud, Paul Melun, Charles Sijenstuhl et Bruno Megarban, chef de service réanimation à l'hôpital Larry Boisière. Je vais juste te rappeler ces chiffres, parce que la 9e vague, c'est pas la question n'est plus de savoir s'il y aura une 9e vague. On y est. 40 000 cas positifs au Covid ont été recensés en 24 heures, une hausse de 6,2% par rapport à dimanche dernier. Et en moyenne, on est à un peu plus de 55 000 cas, hausse de 28%. À quel point cette 9e vague, elle peut monter, professeur ?
On ne peut pas le savoir, évidemment. Cela dépend de plusieurs paramètres. D'abord, la contagiosité du virus, et ça, on sait qu'il est très contagieux. Deuxièmement, la réceptivité de la population, et donc on ne sait pas si l'immunité acquise au cours des infections précédentes par les autres sous-variants Omicron ou par la vaccination va permettre quand même de protéger un certain niveau des contaminations,
oui.
Et puis aussi de la façon avec laquelle on vit, c'est-à-dire effectivement à quel niveau on va appliquer les mesures barrières, jusqu'à quel niveau on va mettre le masque dans les lieux publics. Donc il y a trois paramètres importants pour expliquer la progression de l'épidémie. On voit bien que le paramètre sur lequel on peut directement jouer, c'est celui des mesures barrières, d'où l'importance évidemment de recommander le masque dans les lieux clos, là où on ne peut pas respecter la distanciation physique.
Une autre question, et là maintenant c'est sur la triple épidémie. On a le Covid, il y a eu la bronchiolite, elle est encore présente, et il y a également la grippe qui arrive. Et on annonce une épidémie de grippe encore plus virulente que les années précédentes. À quel point cette triple vague peut mettre l'hôpital sous tension ?
Alors, on va dire toutes ces infections, évidemment, ont lieu habituellement l'hiver. Donc chaque hiver, on a une succession d'épidémie d'infection respiratoire.
Mais trois d'un coup.
Là, effectivement, on va dire l'originalité de cette année, c'est qu'elles coïncident à peu près dans le temps et qu'elles sont toutes d'une ampleur très importante. Parce qu'effectivement, au cours des deux années précédentes, probablement l'immunité collective a été moins bonne, notamment vis-à-vis du virus responsable des bronchiolites, le virus respiratoire syncytial. Alors, je dirais, c'est pourquoi, là, à nouveau, on revient au même problème. Oui, cette conjonction pourrait mettre en difficulté l'hôpital public. Oui, pour cette raison, le port du masque qui prévient la diffusion des trois épidémies est intéressant. C'est pourquoi, évidemment, nous faisons une recommandation forte pour le porter dans les lieux où cette contamination peut se faire.
Vous parlez presque comme un homme politique. Là, ça y est, professeur Mégarban. À chaque question, vous me parlez du port du masque, mais on ne va pas refaire le débat. À ce moment-là, si vous voulez qu'on le porte dans les transports, on le porte partout.
Non, je suis plus sur la recommandation forte que l'obligation.
Recommandez, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à porter le masque.
Non, je ne le ferai pas, personnellement.
Ce sera mon voisin de gauche qui va là.
Par contre, effectivement, pour revenir à votre question, oui, l'hôpital public est en grande fragilité. Oui, il l'est indépendamment des épidémies. Oui, on se sert des épidémies pour expliquer que c'est à cause de ça qu'il est fragile. C'est faux. Il est fragile de base. Mais malheureusement, les épidémies ne font que dévoiler au grand public cette fragilité que nous avons depuis plusieurs années.
Vous restez avec nous, évidemment, professeur. On y reviendra en fin d'émission. Autre thème ce soir, et on en a beaucoup parlé. Vous savez, cette grand-mère, cette mamie de 89 ans qui a été lâchement, sauvagement agressée à Cannes, en pied de son immeuble. C'était fin août par trois adolescents délinquants de 14 à 15 ans. Je rappelle les faits. Donc on les voit à l'image d'ailleurs, cette mamie qui... Donc il y en a un qui va la frapper par derrière, un coup très violent à la tête, l'autre va lui voler son sac, et le dernier va filmer la scène. Voilà dans quelle situation on était à Cannes fin août. De ces trois délinquants, vous en avez deux qui ont été condamnés, mais la décision elle sera rendue 6 mois plus tard, et le troisième qui filmait a été relaxé. Le parquet a fait appel de cette décision, bien sûr. La mairie de Cannes a décidé finalement de réagir, et elle a décidé de retirer l'emplacement du marché au père de l'un des deux agresseurs. Il avait un emplacement une après-midi par semaine, et on lui a retiré l'emplacement. Parce que son fils, évidemment, avait agressé.
Pas seulement.
Voyez le sujet et on en parle juste après.
Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Grasse au mois d'août s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de la Boca à Cannes. Monsieur Azari y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice, une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité de M. Azari. À l'époque, le maire de Cannes, David Lisnard, avait fait part de son indignation et demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile. La famille sera reçue lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la Boca de Cannes. La municipalité prévient qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
Elle ne sort quasiment plus de chez elle. Hein. Oui. Marc Varneau.
Oui, je crois qu'on a déjà eu un cas comme ça à Valence. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où le maire avait décidé de supprimer les aides sociales. Finalement, ça avait été retoqué par le défenseur des droits. Le problème, même si je trouve que l'idée est très bonne, le problème, il est comme d'habitude juridique. C'est-à-dire que lorsque vous supprimez une place de marché à quelqu'un, c'est supprimé par rapport au code des marchés forains. Et il faut que la personne ait fait une infraction. Vous ne pouvez pas punir quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas prévu dans la loi. Mais par contre, ça met en exergue le fond du problème, qui est celui de la délinquance des mineurs et de l'irresponsabilité des parents. Il y a un seul cas de figure où les parents sont responsables, c'est quand il y a une condamnation au civil. Quand un mineur est condamné au civil, si par exemple il est condamné à 5000 euros de dommages d'intérêt, du coup les parents doivent payer pour le mineur. Mais c'est le seul cas de figure. Et évidemment, les contournements sont massifs. Il faut absolument simplifier la loi, rendre les parents responsables dans toutes les situations et ne créer surtout aucune exclusion. ni RSA, ni aide sociale, aucune exclusion. Vous êtes condamné à 2000, 3000, 5000 euros d'amende. Si vous en avez pour 40 ans, ben vous en aurez pour 40 ans. Mais on vous effacera jamais cette dette.
Charles Sijenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin, je le rappelle, président du groupe. Quel regard vous portez
sur... président du groupe.
Ouais, bon, porte-parole. Porte-parole. Bientôt, peut-être.
Excellent président de groupe.
J'ai créé des conflits sur Renaissance. Mais oui, malheureusement, c'est un lapsus révélateur. Porte-parole. Vous en pensez quoi, alors? Est-ce que c'est une bonne initiative de la mairie?
Chapeau, bravo au maire. Vraiment, bravo à David Lisnard.
Paul Melun.
Je ne sais pas trop. Je suis partagé sur cette question. Je pense qu'on, quand on réfléchit aux questions... Alors, naturellement, si cette famille ou des membres de cette famille ont des problèmes avec la loi ou ont commis des actes délictueux de quelque façon que ce soit, évidemment, il faut qu'ils soient condamnés. Maintenant, on pratique quand même l'individualisation des peines en France. Et on ne peut pas être condamné pour la peine d'un autre, je crois, en droit.
C'est pas un autre, c'est bons. Juste ses enfants.
Ou même ses enfants. Bah oui, mais bon, vous n'êtes pas responsable. Vous voyez, c'est quand même très, très délicat en droit.
Le problème, c'est juste l'éducation.
Constitutionnellement,
vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants, Paul Melun. À un moment donné, peut-être que de responsabiliser les parents, vous aurez des parents qui vont serrer un tout petit peu la vis.
Je pense d'opérer, et je pense en tout cas que vous ferez pas reculer la délinquance de cette façon.
Eh ben, c'est pas ce que pensent les Français, Paul Melun.
Savez,
62%
moi,
des Français, sondage.
Non mais, qu'on dit
sondage CSA pour CNews cette semaine, 62% des Français sont favorables à l'expulsion des familles de délinquants de leur logement HLM. C'est la même chose. Mais vous plaisantez, on est dans la même idée.
Dérange des honnêtes gens qui sont dans des HLM et qui ont envie de tranquillité publique.
71% des Français sont favorables à la suppression des aides sociales pour les familles de délinquants. Mais c'est la même chose.
C'est exactement la même chose.
C'est exactement la même chose. Dans la famille, un délinquant, un enfant délinquant, et ben vous sucrez les aides sociales.
Je vais vous dire au fond de ma pensée, si vous me donnez juste 20 secondes sur ce sujet de la suppression des aides sociales. 10, ça me va. Je pense que la suppression des aides sociales, ça peut être contre-productif, que vous pouvez créer des replis identitaires, communautaires, une contre-violence, et qu'il vaut mieux condamner très sévèrement à la première action ces mineurs qui commettent des actes délictueux ou criminels, qu'il faut des maisons de correction fermées ou semi-fermées, qu'il faut, sur le modèle des Pays-Bas, parfois des peines de prison de 24 heures ou de 48 heures pour casser les chaînes de délinquance. Il y a beaucoup de solutions de sécurité, et là, le gouvernement a la main qui tremble, mais je pense pas que ça, ce soit de nature, de sanctionner les familles de délinquants sur les aides sociales. Je pense pas que ce soit de nature, si vous voulez, à révolutionner la délinquance.
On poursuit le tour de table. Georges Fenech qui a réagi cet après-midi sur cette décision du maire de Cannes.
On n'est responsable pénalement que de son propre fait. D'accord ? Sauf qu'il existe quand même des dispositifs pour ce qui concerne les parents dont la carence éducative est avérée. Et à ce moment-là, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité civile, c'est-à-dire qu'ils doivent assurer et rembourser les préjudices commis par leurs enfants. Mais il y a un texte qui existe aussi sur le plan pénal. À partir du moment où vous démontrez que les carences éducatives sont directement à l'origine de la délinquance des mineurs, les parents peuvent être condamnés jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et combien d'amendes, je ne sais plus. Mais un texte qui n'est évidemment jamais appliqué. Donc il y a une responsabilité des parents, ce qui est normal, puisqu'ils ont la responsabilité de leur éducation.
Il faut se mettre quand même dans la... il faut voir toute l'histoire, se mettre dans la tête de ce père. David Lisnard le précise dans son communiqué, c'est le père qui a médiatisé cette histoire de place sur le marché. Oui. C'est-à-dire, au lieu de dire,
en se disant victime,
je suis désolée, mon fils s'est conduit de façon innommable, et c'est pas la première fois, puisque viré de plusieurs collèges pour avoir notamment blessé un de ses condisciples, quand même.
Bien sûr.
Le père lui-même, devant 61 000 euros à la CAF, juste parce qu'il a eu en fait une activité frauduleuse, non déclarée. Et donc la prise de conscience.
Sur la base de tout ça, il y a déjà matière à condamner, quand même, je pense, assez sévèrement.
Voilà, alors la prise de conscience que tout d'un coup il se frappe le front en disant bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai mal éduqué mon enfant, je vais complètement changer.
Je serais curieux de savoir si c'est le même qui était intervenu, vous savez, chez...
J'ai cherché, j'ai pas trouvé. En tout cas, ce que David Lisnard raconte aussi, c'est que la mère et la fille sont venues à la mairie et que ça s'est extrêmement mal passé parce que c'était également sur le mode revendicatif. Pourquoi on nous fait ça? On y est pour rien.
En 30 secondes. Réduisez un peu parce qu'on a beaucoup de thèmes et je veux vraiment que tout le monde puisse intervenir.
Moi, je pense que David Lisnard, il sait pertinemment ce qui va se passer, que ça va être retoqué, mais ce qu'il a voulu, c'est ouvrir le débat. Il a voulu taper du poing sur la table et médiatiser un sujet qui a vraiment besoin d'être médiatisé parce que le fond du problème...
Marqué, hein.
Comment ?
Rappelez-vous, hein, ça avait marqué David Nistar, c'était lui qui, allait, qui était allé au pied de l'immeuble pour essayer de retrouver les délinquants.
De prendre des sanctions dont on sait pertinemment, quand on est maire, qu'elles sont retoquées juridiquement, c'est fait pour faire du média. Et il a raison de faire du média parce qu'il faut ouvrir le débat.
Je ne suis pas sûr que, c'est sûr, que ça va être retoqué. Nathan Devers, vous allez réagir.
Ce qui va être accepté, c'est qu'ils perdent leur HLM. Ça va être accepté.
Ah bah c'est déjà ça.
Premièrement, l'agression de cette personne âgée par un jeune de 14 ans est insoutenable. De la même manière qu'en France, comme dans tous les pays, il y a un certain nombre de faits insoutenables qui se passent chaque jour. Il y a, je crois, 900 homicides par an en moyenne. Comme dans tous les pays, c'est une tragédie, mais ça fait partie du mal métaphysique qu'on doit accepter dans tous les pays, c'est l'existence.
Ah non, on n'est pas obligé de l'accepter. Hein.
Non, mais d'accord avec vous. Qui existe dans tous les pays.
Ah, ça existe, oui, malheureusement, oui.
Le problème est que si on fait une psychose sur un mal qui est impossible, encore une fois, à empêcher, des actes de barbarie, ça existe partout, ça existera toujours, et qu'on détruit pour se faire l'état de droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre l'insécurité, détruit l'état de droit pour cela, c'est extrêmement problématique. Monsieur Lisnard, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, je trouve que c'est un grand maire en dehors de cela. Mais je trouve que, premièrement, il y a le principe d'individuation de la peine que vous avez rappelé, qui est un principe fondamental dans l'état de droit.
Vous êtes parent, vous êtes responsable de vos enfants, Nathan, évidemment.
Mais non, mais d'un point de vue métaphysique, mais pas d'un point de vue pénal, ou pas d'un point de vue punitif. Et deuxièmement, il faut rappeler quand même la généalogie de cette affaire. Monsieur Lisnard a dit, vous m'arrêtez si je me trompe, il y a quelques semaines, quand il y avait eu une agression d'une autre femme octogénaire, il avait dit, si ça avait été ma mère,
c'est la même.
Je serais...
Nathan, c'est la même personne.
Pardon. Il avait dit, je serais probablement en prison.
Oui.
Ça s'appelle quand même, là, une valorisation de la vengeance. Si vous voulez, là, c'est une régression politique sur le plan du discours, il n'y a pas d'action. C'est une régression politique
mais
terrible.
Mais il a dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, Nathan Devers, si demain c'est votre grand-mère qui est agressée comme ça, évidemment que vous sortez de Bourgogne.
Je vais vous
parce que vous savez que la justice ne répondra pas, puisque regardez ce qui se passe pour ces trois délinquants. Dans 6 mois, ils auront la décision. Ils sont dans des centres éducatifs fermés, donc c'est des centres éducatifs, vous savez comment ça se passe, ouverts. Et le troisième a été relaxé alors qu'il filmait. Bon, bah voilà,
vous
savez.
Je vais vous donner un exemple, je suis pas d'accord avec vous. Je vais vous donner un exemple
international.
Vous dites, la majorité des Français pense comme ça.
Mais évidemment,
mais attendez, évidemment que quand on voit une image, tout le monde se dit si c'était ma mère ou si c'était ma grand-mère, c'est absolument insoutenable. Évidemment qu'on a envie de se venger. Mais à partir du moment où un dirigeant politique donne corps à cette pulsion de vengeance, c'est extrêmement dangereux. Je vous donne un exemple international. Aux États-Unis, au début du XXIe siècle, il y a eu un phénomène de mal métaphysique absolu qui a été le 11 septembre. Tous les Américains ont été traumatisés par la chose. Évidemment que tous, ils ont ressenti en eux, dans leur pulsion, un désir de vengeance. Et vous avez eu des politiques américains qui ont joué sur ce désir de vengeance, qui lui ont donné une forme politique et qui ont mené l'Amérique dans le chaos.
Là, c'est la théorie par la, c'est la comparaison par l'absurde, comme dirait Julien Drey.
Non, toutes les comparaisons sont pas des équivalences. Pas de comparaison.
Sur ce point, il y a un autre point qui pour moi est important. C'est celui du rôle des maires. Moi, avant d'être député, il y a quelques mois, j'étais adjoint au maire dans une commune qui s'appelle Célestat, en Alsace, une ville moyenne, comme il y en a plein dans tout le pays, comme il y en a en France. Et par cette décision, je pense que David Lisnard veut aussi réaffirmer le rôle prépondérant et central que doit avoir le maire dans la gestion de l'ordre public de sa commune. Et pour moi, c'est normal et c'est du bon sens qu'un maire décide encore de qui a le droit d'être présent sur le marché qu'organise la commune ou non. Et si le maire de la commune, qui est démocratiquement élu par les Cannois, ne souhaite plus voir telle personne parce qu'effectivement on voit un peu
alors
le profil
de la loi,
il a le droit de lui expliquer qu'il n'a plus
de droit.
Le calme. Parce que c'est 23h30 et c'est le point sur l'information. Le point sur l'information, on coupe le micro de Judith Vintraub, s'il vous plaît, et on regarde ce qui s'est passé dans l'actualité ce dimanche.
À Sarcelles, dans le Val-d'Oise, 2 mineurs interpellés après l'agression d'un collégien de 13 ans. Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il rejoint un autre mineur de 14 ans, arrêté hier et dont la garde à vue a été prolongée. Vendredi, la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen devant son collège. Le mobile de l'agression reste pour l'heure inconnu. À Nice, le suspect est d'un double meurtre interpellé vers midi. Un Iranien de 48 ans est repéré par 3 policiers près du marché de Noël. Armé d'une machette et d'un couteau, l'homme tente d'agresser une policière, mais celle-ci y tire et le touche à l'épaule. Connu pour des faits de droit commun, l'individu était recherché depuis plusieurs jours. Il est suspecté d'avoir tué 2 sans-abri retrouvés morts mercredi. Et on termine par cette image, direction les quarts de finale pour l'équipe de France qui s'est imposée 3-1 face à la Pologne grâce au nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud a ouvert le score avec son 52e but avec la sélection sur passe décisive de Kylian Mbappé, lui-même auteur d'un doublé. Prochaine étape, samedi, la France affrontera l'Angleterre, vainqueur 3-0 face au Sénégal.
Faire trouble à l'ordre public, tout comme plusieurs.
Allez, on reprend le débat. Voilà le point sur l'information avec Isabelle Piboulot. On oublie presque que la France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Bravo les Bleus. Nathan Dever, Marc Varno, Paul Melun, Judith Vintraub, Charles Schizenstuhl et Bruno Mégarban. Voilà le groupe des 6 pour Soir Info Week-end. On va parler d'Éric Zemmour un peu, puisqu'il a fêté ce dimanche la première année de son parti. Reconquête. Un an sépare le discours de Villepinte de celui aujourd'hui du Palais des Sports de Paris. 4000 personnes étaient présentes. Le parti revendique quand même 130 000 adhérents en l'espace d'une année. Et voilà ce qu'il a dit. Ne soyez pas pessimistes. Que tous ceux qui prédisent notre mort se mettent bien une chose en tête. Nous venons de naître. Éric Zemmour à la relance, est-ce que vous y croyez ou pas? Rapidement, Paul Melun, en 30 secondes. Je veux vraiment qu'on arrive à être concis.
Très rapide. Incontestablement, Éric Zemmour a réussi à coaliser autour de lui une ferveur militante, en premier lieu, qui est sans commune mesure avec la plupart des partis politiques. En revanche, ça ne s'est pas transformé dans les urnes, on l'a vu avec les législatives, avec les présidentielles, même si pour un parti qui n'existait pas, faire 7%, c'est quand même le Parti Socialiste plus LR. Voilà, ils sont quand exactement. Même des vieux partis. Donc c'est pas rien. Maintenant, moi j'ai pas de boule de cristal, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il a réussi à lever autour de lui et à imposer ses thèmes dans l'actualité, ce qui n'est pas rien. Maintenant, on est en train d'assister, pour juste terminer le propos, sur des partis politiques qui ont différentes vocations. Vous avez des partis comme LR ou le Parti Socialiste qui sont des partis de territoire, qui ont des
en état de mort cérébrale.
Oui, je pense, des astres morts. Mais qui continuent à flotter sur des vies politiques parce qu'ils ont des élus locaux, des partis hors sol comme Renaissance qui arrivent à gagner des élections nationales mais qui n'arrivent pas à s'ancrer dans les territoires, et des partis comme celui d'Éric Zemmour qui effectivement ont, si vous voulez, une force en termes de conviction, de pouvoir de conviction sur une espèce de fan base importante, mais qui n'arrivent pas à le transformer dans les urnes.
Alors. Peut-être pas dans les urnes, mais en tous les cas, le débat, il est central. Alors, c'est plus un sujet tabou, d'ailleurs, le grand remplacement, on peut en parler, mais c'est surtout le grand déclassement. Mais... Regardez ce qu'il a dit, la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde, elle veut devenir le tiers-monde. Le grand déclassement, c'est ça aussi le sujet central. Judith et ensuite Marc.
Mais ce qui est paradoxal, c'est précisément qu'il ait réussi à imposer ses thèmes et que ce ne soit pas lui qui en ait touché les dividendes. En fait, il a travaillé pour Marine Le Pen et vu la configuration... Vu la configuration de notre paysage politique, il n'y a plus de place actuellement pour lui. Lui ne peut retrouver une place que si, en gros, Marine Le Pen disparaît et que si les Républicains continuent à s'étioler. Là, il peut faire quelque chose qui passera par son combat à lui, qui est l'union des droites. Sinon, il ne se passera rien.
Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette année, cette première année de reconquête et cette première année dans l'arène politique d'Éric Zemmour ?
Sur le parti, sur Éric Zemmour et son parti, c'est un parti nouveau, effectivement, qui a beaucoup de ferveur autour de lui, mais il reste polémiste. Et je ne crois pas qu'un polémiste pourra devenir un jour président de la République. Donc, de toute façon, il a dans son ADN quelque chose qui va le bloquer. Par contre, son meilleur allié, c'est de pouvoir prendre la place d'extrême droite à Marine Le Pen. Et comme Marine Le Pen... Elle est tout sauf complètement à côté de ses pompes, pardonnez-moi. Elle a bien compris.
Et puis il y a Jordan Bardella.
Elle a bien compris. Et Jordan Bardella également. Elle a bien compris que c'était très pratique pour elle d'avoir à l'avenir un Zemmour à sa droite. Ça lui permettra de se recentrer comme l'ancien RPR, si on a besoin d'un RPR, une droite forte, mais de droite et pas d'extrême droite. Et pour elle, ce sera tout bénéfice.
Donc vous considérez qu'il est d'extrême droite, Éric Zemmour?
Écoutez, sur l'échiquier politique, c'est compliqué de pas être d'extrême droite quand on a un certain nombre de ses positions.
Non, mais ça,
quand on pense que le capitaine Dreyfus.
Comment définit l'extrême droite?
Sur un certain nombre d'idées arrêtées, notamment sur le passé, par rapport à un passé qui est pas très reluisant, quand on estime que le capitaine Dreyfus était peut-être pas innocent, que Vichy a protégé les Juifs, etc., etc. Je crois que ce sont quand même des marqueurs très forts qui différencient l'extrême droite d'autres partis.
Donc c'est sur une question historique. Nathan Dever, sur l'année écoulée et finalement Reconquête, quel regard vous portez? S'il y avait une chose à retenir.
J'avais dit au tout début du lancement de Reconquête, pour ma part, que je pensais qu'il participait à deux présidentielles à la fois, la présidentielle politique et la présidentielle des idées. Sur le plan de la présidentielle politique, il est évident que ça a été un échec absolu et très intéressant d'ailleurs de voir que Éric Zemmour, qui était quand même un observateur de la vie politique très acéré sur les causes des échecs de telle ou telle politique, il a sombré lui dans tous les pièges qui étaient tendus par ses adversaires, alors qu'il était paradoxalement très culturel. C'était sans doute celui qui avait le plus de culture politicienne, enfin des petites intrigues de palais, etc. Il connaissait ça très bien en tant qu'ancien journaliste. Et il en a été, si vous voulez, victime. Sur le plan de la présidentielle des idées, moi, il me semble, comme Paul, que Éric Zemmour, d'ailleurs bien avant qu'il soit candidat et qu'il fonde Reconquête, aura imposé en fait tous ces thèmes dans le débat public. Mmh. Et même pour ses opposants, en fait, on débat de thèmes qui ont été lancés dans le débat par Éric Zemmour. Et que sur ce plan-là, il a gagné. Imaginons même qu'il se mette à la retraite, en retrait de la vie publique à partir de maintenant et définitivement, il aura quand même gagné, me semble-t-il, ce qui était son pari initial, à savoir d'imposer les thèmes du débat.
Est-ce que finalement, une personne comme Éric Zemmour, objectivement, Charles Sujenstuhl, ça ne manque pas, non mais c'est sa personnalité, parce que ces thèmes ont finalement alimenté cette campagne présidentielle, est-ce que c'est pas une personnalité qui manque à l'Assemblée nationale ?
Ah non. Je suis très heureux de ne pas l'avoir comme collègue à l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire pourquoi.
Vous préférez
pour les deux raisons d'ailleurs qu'a évoqué Marc Varneau, mais je vais rapidement les développer. Parce que pour moi, Éric Zemmour a fait quelque chose, a eu deux propos très graves qui pour moi sont impardonnables. Pour un responsable politique français qui prétend à des fonctions comme il l'a fait. Premièrement, ça a été les propos qui ont cherché d'une façon ou d'une autre à réhabiliter l'action du maréchal Pétain et l'action de Vichy. Quand par ailleurs, on explique matin, midi et soir...
Il a été relaxé en appel.
On est un féru d'Histoire de France.
Non, mais il a été relaxé en appel. Vous êtes d'accord avec moi ?
En tout cas,
je n'ai pas envie de me faire l'avocat. Il a été relaxé en appel.
Il avait oublié de lire les quelques pages qui sont maintenant clairement documentées par les plus grands historiens sur l'action terrible qu'a eue Pétain dans la déportation des Juifs. Et la deuxième, là je parle comme Français mais aussi comme Alsacien, les propos qui ont cherché à remettre en cause l'innocence du capitaine Dreyfus, pour moi, sont d'une gravité absolue. Quand on sait ce qu'a représenté l'affaire Dreyfus dans la vie politique française, on a parlé tout à l'heure du tournant du 19e, du début du 20e siècle, les plaies, le mal qu'a fait cette affaire en France, on a réussi à en sortir et ce polémiste a remis de l'huile sur le feu et recherché à remettre en cause
sur la première...
l'innocence de Dreyfus. Pour moi, c'est Dreyfus et perte.
Moi, je pensais que vous alliez répondre de manière objective. La première chose qui vous pose problème, il a été relaxé par la justice. Et puis, parlais de l'Assemblée sur l'idée, sur la personnalité, sur ce qu'il a pu apporter. Quand une personne fait 7% à la présidentielle, ce sont des millions de personnes qui ont voté pour elle et qui, peut-être, c'est pour ça que je demandais s'il manque ou non à l'Assemblée.
Non, non. J'ai présenté d'ailleurs, il a été battu aux élections législatives.
Que ça pose question. Ça, moi, je ne suis pas soupçonnable d'être zémourien. Par contre, effectivement, quelqu'un qui fait 7% à la magistrature suprême, c'est quand même ce serait important, je pense. C'est pour ça que je suis favorable à une dose de proportionnelle plus importante. Qu'il ait des parlementaires à l'Assemblée nationale.
L'énergie à présent. L'énergie, on va parler de la crise de l'énergie et le risque de coupure d'électricité cet hiver. Alors on n'y comprend plus rien. Un temps on nous dit qu'il n'y aura jamais de coupure. Ensuite on nous prépare au pire. C'est-à-dire que 60% de la population risque d'être touchée par des coupures si l'hiver est rude. Et ça pourrait commencer dès le mois de janvier. Vendredi, le ministre de l'Éducation nationale nous annonce que si coupure il y aura des fermetures le matin.
Annoncer la veille au soir,
bien sûr. Et puis là, aujourd'hui, il change un peu de ton. Écoutez Pap Ndiaye.
Je ne suis pas prévisionniste météo. Mmh. Ça dépend largement des vagues de froid. Mmh. J'espère que cela ne sera pas le cas. C'est d'ailleurs improbable. Mais il faut
improbable, vous dites. Hein.
C'est improbable parce qu'il faut une conjonction de critères, y compris de critères météorologiques, qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle, mais nous devons envisager cette possibilité néanmoins. Donc si jamais les délestages devaient être programmés, à ce moment-là, il faut évidemment organiser le système scolaire en conséquence dans les secteurs bien précis qui seront concernés. Il s'agit d'une mesure de précaution au cas où des délestages programmés seraient nécessaires, il faudrait alors envisager la fermeture d'écoles dans des secteurs bien précis le matin. C'est donc une mesure de précaution. Ça n'est en aucun cas une probabilité. C'est une éventualité parce que il faut évidemment envisager tous les scénarios, y compris les scénarios improbables.
Des scénarios improbables. En 48 heures, il passe de ça à il n'y aura pas d'école le matin dans les zones qui subiront des coupures. Les délestages programmés vont en effet toucher les écoles et les établissements scolaires sur les trois créneaux, 8, 10 heures, 12, 12 heures, puis 18, 20 heures. On n'y comprend plus rien. Donc Charles Sujenstuhl, essayez de nous éclairer un peu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages au sein du ministère de l'Éducation nationale.
Les premiers propos, moi, je n'avais pas non plus trop compris. Donc du coup, là, c'est un peu plus précis. Et effectivement, ça sera dans des cas extrêmes, très circonscrits et qu'on espère improbables, c'est-à-dire qu'ils ne se produiront pas. Sur le sujet de l'énergie et de l'hiver qui va arriver, l'objectif, c'est bien sûr qu'on n'ait pas à faire de coupure. Il y a un élément qu'on maîtrise et un élément qu'on ne maîtrise pas. L'élément qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. L'hiver pourra être doux, l'hiver pourra être rude, on espère qu'il sera doux, mais si jamais il était rude, on sait que ça mettra notre système d'électricité un peu sous tension. L'élément qu'on maîtrise, et c'est celui-ci qui est répété depuis le mois d'octobre par le gouvernement, c'est que si nous arrivons collectivement à réduire nos consommations de 10%, on passera l'hiver sans difficulté. Pour le moment, on a fait la moitié du chemin. On a fait 5%.
Les entreprises.
Si on arrive... Oui, justement.
Oui,
non, justement,
c'est faux. Pourquoi
pour
les entreprises
moment, pour le moment.
Parce que le renchérissement des matières premières et de l'énergie font qu'elles sont obligées de se mettre au chômage technique.
Exactement.
C'est la raison pour laquelle
c'est exactement ça. Vous avez étayé le propos que je commençais à avoir. Si on arrive à baisser collectivement de 10% la consommation d'électricité dans notre pays, on passera normalement sans difficulté l'hiver. Pour le moment, on a fait la moitié du chemin et c'est essentiellement le fait des entreprises. On en revient à ce que le gouvernement dit depuis des semaines. C'est la somme de nos petits comportements individuels qui fera la différence. Baisser, éteindre, décaler, faire tourner l'électroménager la nuit.
Vous n'allez pas nous faire le coup.
Mais non,
vous allez m'expliquer comment on va devoir. Pas vous. Pas après tout ce que vous avez fait, Charles Schulz. S'il vous plaît. Je ne veux pas avoir. J'ai cru voir Olivier Véran en face de moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non.
Sur les chiffres.
Allez-y.
Si je peux me permettre. Dites 10%. Alors on va revenir sur ça, 10%. Une entreprise, elle ne consomme pas en fonction d'un cahier d'économiste d'énergie. Elle consomme en fonction de son activité. Et heureusement, l'activité est bonne. Deuxième chose, quand on parle de 10%, comment, en passant de 60 gigawatts à 40 gigawatts, c'est un tiers en moins, 10% vont suffire. Enfin, dernier élément, vous devez être au courant, puisque vous êtes élu, pas moi, mais moi je suis chef d'entreprise. Les préfets ont convoqué les chefs d'entreprise. Les gros employeurs, les gros consommateurs ont été convoqués. Vous savez comment ça s'est passé ? Très très mal. Très très mal. Pourquoi ? Parce que les préfets... ils pensent qu'une usine, c'est comme votre salon. C'est-à-dire que vous éteignez pendant 2 heures et puis vous rallumez. Donc j'avais à côté de mon entreprise un gros employeur, une multinationale qui consomme beaucoup d'énergie, qui fabrique de l'alimentaire, et qui a expliqué au préfet, mais vous savez, chez nous, quand on éteint l'électricité, c'est 3 jours qu'il faut. Qui va payer pendant les 3 jours ? Chez moi, dans notre usine, c'est 1 journée qu'il faut. Le préfet, ça, il n'avait pas compris avant de rencontrer les entreprises. Ces coupures électriques, c'est ingérable. Et je modère mon propos. C'est ingérable.
Ça dépend des entreprises.
C'est ingérable.
Ça dépend des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises.
Vous allez les sélectionner une par une ? Ah ben, good luck.
Ben non, mais attendez. Vous ne pouvez pas reprocher au préfet de prendre les devants. Parce que si les préfets n'étaient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire dans tous les départements, et que dans un mois et demi, on est dans une situation compliquée et qu'ils s'y mettaient seulement, vous serez les premiers à dire mais. Qu'a fait l'État, qu'ont fait les préfets ?
Non, mais
on anticipe tout ça depuis le mois d'octobre.
Qui demande au MEDEF et à la CGPME
sont en train de voir au cas par cas où est-ce qu'on pourra éventuellement couper et où est-ce qu'on ne pourra pas couper.
Les plans de délestage, quand on en est arrivé là parce qu'on a massacré, l'industrie nucléaire en France, évidemment que c'est la seule solution. Mais ne faisons pas porter la responsabilité du recours au plan de délestage aux entreprises qui n'en peuvent mais déjà ou aux Français. Alors, ça ne changera rien.
Pour prolonger ce que vous dites avec, je trouve, beaucoup de justesse sur notre parc nucléaire, c'est que c'est un peu le même sujet que sur la santé. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit pendant la pandémie que l'hôpital a été sous-doté, qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens, qu'on a fermé des lits pendant plusieurs décennies, qu'il y a eu la T2A, etc., qu'on a eu une vision de rentabilité de l'hôpital public et qu'aujourd'hui on est à l'os. Et bien là, c'est pareil pour la souveraineté énergétique. On se réveille, passez-moi l'expression, avec la gueule de bois, parce que finalement, pendant plusieurs décennies, on n'a pas misé sur notre souveraineté énergétique, on a sous-investi dans notre parc nucléaire et qu'on a décidé depuis près de 10 ans, un peu plus d'ailleurs, qu'on allait commencer à démanteler les centrales nucléaires. Par conséquent, aujourd'hui, on fait payer aux Français et aux ménages français les mauvais choix et l'impéritie des gouvernements successifs depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et ça, moi, ça me pose un problème moral, puisqu'on parlait tout à l'heure d'éthique et de morale, de faire payer aux gens en leur faisant du préchat à 3 francs, en leur disant j'éteins, je sais pas quoi, etc.
Et je vais vous répondre, Paul Melun, pour le coup, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, il a été élu sur son programme. Et son programme, tout le monde pouvait le lire. C'était écrit
pas sur le délestage.
Pardonnez-moi, c'est son programme, c'était écrit noir sur blanc qu'il allait poursuivre la politique, mais et que la politique de énergétique. Non, mais la politique énergétique de François Hollande, qui était donc de réduire notre parc nucléaire. C'était écrit noir sur blanc.
Parce que les Français votent pas pour un premier programme, ils votent pour 150 points.
Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et peut-être, c'est peut-être le plus important et probablement le plus grave. Marc Noazet, vendredi, qui est le président du SAMU Urgence de France. Voilà ce qu'il dit. Si vous appelez le 15, le 17 ou le 18 de votre portable et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel il ne passera pas. Ce que je comprends, c'est que s'il y a des délestages, des coupures donc d'électricité, il est possible que ça touche les opérateurs. Il est possible que donc il y ait des gens qui ne soient pas dans la capacité d'appeler le 15, le 17 ou le 18. Et donc, il devrait appeler le 112. Je vous donne un autre cas très précis. Ma grand-mère, qui a 90 ans, je peux vous assurer qu'elle ne connaît pas le 112. Donc, elle a un souci de santé. Il y a une coupure de courant. Qu'est-ce qu'ils font ?
Sur le téléphone, alors selon les informations que j'ai, sur le téléphone filaire, le bon vieux téléphone,
ouais, le téléphone fixe,
il y aura pas de difficulté parce
oui,
que c'est pas le
ah bah là, pour le coup, il y en a très peu de téléphones filaires.
C'est pas le même réseau, donc pour le cas,
bah, je vous dis le téléphone
ma grand-mère, qui
bah, exactement, filaire, voilà.
De ce point de vue-là, il y aura pas de souci, les numéros d'urgence fonctionneront toujours. Je pense que le cas que vous évoquez, ce sont le cas, il y aurait certaines antennes, mais je reste vraiment prudent parce que j'ai pas d'informations précises. Il y aurait certaines antennes pour la téléphonie mobile. Qui, elles, sont, mais pas toutes, une partie sont reliées au réseau électrique. Donc, il y a une partie qui ne fonctionnerait pas. Mais même dans le cas où les appels ne passeraient pas, les appels d'urgence, eux, passeront toujours. Moi, en tout cas, c'est
comment
les informations.
Comment ils passeraient ? Le 112, mais sauf réseau, que personne... Mais si, c'est les réseaux européens. Mais non, le 112, mais sauf que ça ne... Mais les gens ne sont même pas au courant. Enfin, personne...
Tout le monde, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau.
Mais non, pas tout le monde, c'est ça. Les personnes fragiles, les personnes âgées. Enfin, mais oui, le 15, le 17, le 18, pas le 112.
Donc en réalité, ils vont alimenter en électricité les immeubles. Parce que c'est ça. Les immeubles, il y a les antennes, parce que les antennes... sont alimentés sur la copro, donc l'immeuble à droite aura de l'électricité parce qu'il y a une antenne sur le toit, et l'immeuble de gauche n'en aura pas parce qu'il n'y a pas d'antenne.
Non mais attendez, l'objectif,
ils n'auront pas le choix,
parce que Nathan Devers lève la main depuis avant. L'objectif c'est de ne pas en arriver là. Et désolé, vous prenez ça avec beaucoup de légèreté ce soir, mais la diminution collective de 10% de nos consommations individuelles, qu'elles soient le fait des entreprises et aussi des ménages, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Quand on sait par ailleurs, et que tous les spécialistes nous disent que globalement, dans les consommations énergétiques dans notre pays, il y a 20% en fait qui sont des consommations inutiles, parce qu'on laisse les lumières allumées, on met le chauffage quand la fenêtre est ouverte, etc. etc. Donc, il y a aussi un sujet de long terme pour aller vers
mais
plus de sobriété.
Efforts, vous savez très bien, Charles, ensuite, c'est fini. Alors, vite, très vite.
Non,
parce
mais,
que là...
et ensuite, y a, tout oui, ça sera bien. Anticipé et annoncé 3 jours avant. L'État communiquera Allez. Les endroits où il y aura les coupures.
Écoutez, c'était je suis désolé de vous presser. Je n'avais pas vu que c'était terminé. Je tiens à remercier tout le monde autour de ce plateau. C'était un plaisir de vous avoir. Je voudrais remercier les équipes qui ont travaillé avec nous très vite, si je le retrouve, un instant, on va me gronder. Eh bien, je ne le retrouve plus, mais Loubna Daoudi était à la préparation de cette émission. Elle a été héroïque aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup travaillé. Axel Thomas, qui a préparé également l'émission, héroïque également. Beaucoup de chance aujourd'hui. Je remercie toutes les équipes en régie. On se retrouve le week-end prochain. Professeur, merci beaucoup. Merci à tous les cinq.
Merci.
Les 5 de bois, c'était un plaisir de vous avoir. Monsieur le député, bientôt porte-parole, vous l'êtes déjà du groupe.
Président.
Bientôt président du groupe. Vraiment. Monsieur le président, merci beaucoup. Je plaisante. Allez, on se retrouve. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Merci à tous pour ce week-end.
On a que des rencontres.